Vous êtes sur RTL.
Toute l'équipe des Petits Matins. Ce matin, retour à Embrun, notre formidable petite ville du Nord, 3000 habitants, à 10 minutes de Lille. Elle a pour particularité d'avoir voté exactement comme la France en 2017. Vous verrez que la situation est en train de gentiment se décanter. Rendez-vous donc à 7h20. Autre rendez-vous passionnant avec François Langlais à 7h40, qui était à Villepinte pour écouter Éric Zemmour. Il va passer au crible son programme économique. Alba Ventura reçoit elle. À 7h40, Éric Trappier, c'est le directeur général de Dassault Aviation, après cette vente record de 80 rafales aux Émirats Arabes Unis. Enfin, sachez que vu la situation sanitaire, nous débattrons à 8h20 avec Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, et Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE. La question du jour, faut-il oui ou non avancer les vacances scolaires pour limiter les contaminations? Nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, à quoi vont ressembler justement nos vacances de Noël?
Question au menu d'un conseil de défense sanitaire aujourd'hui, et c'est notamment le cas des enfants qui sera évoqué, quand dans le même temps les EHPAD vivent cette nouvelle vague rassurée par la vaccination. La démonstration de force d'Éric Zemmour hier pour son premier meeting comme candidat à la présidentielle. Alors, le polémiste a-t-il réussi l'exercice? Et puis en fin de journal, un maratuche et beaucoup de frites, avec des spectateurs qui ont pu revoir les trois premiers volets de la saga Tuche au cinéma avant de découvrir leurs nouvelles aventures.
La politique, Olivier Bost.
Et vous savez ce qui a commencé ce week-end? Eh bien, c'est la bataille pour capter les électeurs en recherche de radicalité.
Les explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
Quelles mesures pour freiner la cinquième vague de l'épidémie? Nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée ce lundi, car les chiffres continuent de grimper chez les plus jeunes notamment. Dans 35 départements, un nouvel enfant sur 100 est testé positif chaque jour. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
C'est justement cette question des plus jeunes qui sera largement évoquée ce matin.
Voilà, le calendrier de vaccination va être précisé. Les enfants les plus fragiles dès la fin du mois et une campagne ouverte à tous les 5-11 ans, peut-être plus vite que prévu. La France doit recevoir près de 2 millions de doses adaptées aux enfants le 20 décembre.
Et la Belgique, elle a avancé les vacances scolaires d'une semaine. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose chez nous?
Alors une semaine, non. D'abord, on est loin de la situation là-bas. Le taux d'incidence belge est 3 fois plus élevé qu'en France, mais le nombre de cas est quand même chez nous préoccupant dans les écoles. Alors le conseil scientifique pourrait recommander dans un avis qu'il doit remettre demain de fermer les classes 2 jours plus tôt, le mercredi au lieu du vendredi dans les écoles primaires. Ça laisserait 10 jours jusqu'à Noël pour voir si dans une famille un enfant a été contaminé, s'il a transmis le virus à ses parents. C'est une piste étudiée par le gouvernement qui se décidera plutôt en milieu de semaine en fonction des courbes de l'épidémie chez les enfants.
Merci Virginie Garin. On vous retrouve dans le journal de 8h pour la brigade RTL.
Une cinquième vague qui touche principalement les enfants, alors que les mois précédents, ce sont surtout nos aînés qui ont été malades.
Oui, dans les EHPAD, ce nouvel épisode est donc abordé beaucoup plus sereinement avec la vaccination massive. Vous l'avez constaté à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, Guillaume Frixon.
Oui, dans cet EHPAD, ils sont 107 résidents. Tous sont vaccinés, tout comme le personnel. Alors les activités ont pu reprendre comme si de rien n'était, du chant, du scrabble ou des ateliers couture. Rachel, 93 ans, discute avec Marie-Louise, sa voisine de chambre, tous les jours.
Quand on soit tous vaccinés, ça fait du bien, quoi, parce que j'aimerais pas le prendre, le Covid, quoi.
Masqués, ils viennent avec le masque, bien sûr, mais enfin, on peut les recevoir.
Alors, les visites des amis et des familles sont autorisées de 13h30 à 17h30 chaque jour, avec la présentation obligatoire du pass sanitaire, comme le rappelle Gaëlle Malbec, la directrice adjointe de l'EHPAD des Savaroules.
Quand bien même, ça serait des familles qui viennent tous les jours, qui sont tous les jours les mêmes personnes, on contrôle quand même tous les jours.
Avec son mari, Mireille vient voir sa belle-mère ici 2 fois par semaine avec un certain soulagement.
En famille, ça nous rassure, ça c'est sûr. Et on espère bien que ça ne fera pas comme l'année dernière, que c'était fermé et compagnie, hein, parce que ça c'est plutôt la catastrophe, hein, pour eux, pour nous aussi d'ailleurs.
Grâce à un protocole strict d'entrée et de sortie, l'établissement n'a pour l'instant jamais été touché par le Covid-19.
Le reportage de Guillaume Frixon dans le Puy-de-Dôme pour RTL.
Et puis à 8h20, je vous le rappelle, on parlera de ces nouvelles mesures envisagées en Conseil de défense sanitaire avec Gilles Pialoux. Il est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. En face de lui, Rodrigo Arenas de la FCPE, syndicat des parents d'élèves. Faut-il avancer les vacances scolaires pour éviter les nouvelles contaminations? Il est 7h04. Éric Zemmour veut partir à la reconquête de la France.
Reconquête comme le nom de son parti qu'il a lancé hier pour son premier meeting comme candidat à la présidentielle. Alors, est-ce que le pari est gagné pour ce début de campagne du polémiste Thomas Desprez?
Oui, sur le plan d'image, Éric Zemmour a sans doute réussi son pari. Plus de 10 000 personnes réunies pour l'acclamer. Une entrée triomphale, des lumières bleu, blanc, rouge. Bref, une démonstration de force.
Bonjour mes amis, merci. Merci de cet accueil. C'est incroyable.
Dans son intervention à la tribune, le polémiste a livré un discours fleuve de près d'une heure et demie, attaquant les médias, accusé de vouloir, je cite, sa mort sociale. Puis il a répondu à ceux qui le traitent de raciste.
Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents et que ne pourraient être français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée?
Un discours aux accents sarkozystes, lui qui revendiquait être un enfant de sang mêlé. Il faudra plusieurs jours pour savoir si ce grand meeting aura permis de relancer sa campagne qui déjà patine. Plusieurs jours aussi pour voir si la candidature d'Éric Zemmour enthousiasme également en dehors des salles de meeting.
Thomas Desprez du service politique de RTL. Une démonstration de force au propre comme au figuré. Des militants de SOS Racisme ont dû être exfiltrés après des affrontements pendant le discours d'Éric Zemmour, qui est lui blessé au poignet. Un homme l'a agrippé avant qu'il ne monte sur scène. Il est en garde à vue. Enfin, plus de 2000 manifestants ont eux défilé dans les rues de Paris pour dénoncer sa candidature.
7h05 et maintenant ce témoignage bouleversant qu'RTL vous a fait entendre ce week-end.
Celui des parents de Célestine. L'adolescente de 13 ans s'est électrocutée en posant son portable en charge sur la baignoire où elle était. Sa famille a donc lancé un appel à la prévention, tout comme Nicolas Arpagian, expert en sécurité numérique. Il était l'invité de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin.
Les règles de base, c'est évidemment ne jamais manier un appareil connecté au courant électrique dans un environnement humide, que ce soit soi-même, c'est-à-dire son corps, ses mains, ses pieds, mais également la pièce, s'il y a une flaque d'eau, et donc a fortiori dans une grande quantité d'eau comme un bain, ça doit être proscrit. C'est donc important de faire de la pédagogie sur un phénomène qui est très physique, mais est un danger qui n'est pas forcément conscient de la part de jeunes qui ne réalisent pas la prise de risque lors de leur consommation numérique dans leur salle de bain.
Nicolas Arpagian, expert en sécurité numérique, invité ce matin de Jérôme Florin sur RTL. En Birmanie, Aung San Suu Kyi, condamnée à 4 ans de prison par la junte militaire. La prix Nobel de la paix assignée à résidence depuis le coup d'État de février était inculpée pour incitation aux troubles publics.
7h06, quand une entreprise quitte la Chine pour se relocaliser en France, et ben ça se passe dans le Gers.
À Florence précisément, l'entreprise Gimbert et ses 66 salariés qui fabriquent des surgelés de la mer a décidé de rapatrier sa chaîne de production. Coût total 7 millions d'euros, dont une partie financée par le plan de relance de l'État. Alors comment la société a-t-elle réussi son opération, Patrick Hisson?
Eh bien, pour parvenir à être compétitif en relocalisant, il a fallu d'abord complètement automatiser les 3 chaînes de production qui seront construites. Bernard Gimbert est le fondateur de l'entreprise.
C'est 10 fois moins de personnes autour de la machine qu'il n'en existe sur des chaînes en Chine.
Ça fera malgré tout 25 salariés de plus dans votre entreprise.
Bien sûr, ce sont des emplois que nous créons grâce à l'automatisation.
Et puis en achetant directement le poisson en Alaska et en le transformant, c'est un tour du monde de la marchandise qui sera désormais évité. Stéphanie Pistre est la présidente de Gimbert Surgelé.
L'empreinte carbone va être sacrément améliorée puisque nous supprimons une triangulaire Chine. Nous approvisionnerons directement auprès des zones de pêche.
Avec bientôt ce label essentiel sur les boîtes de surgelé.
Il sera marqué exactement transformé et conditionné en France. Avec le petit drapeau français.
Le fondateur est ravi 40 ans après les débuts de l'entreprise.
Terminé par la création d'un outil industriel qui satisfasse aux besoins du jour, c'est-à-dire relocaliser des activités industrielles qui sont parties à l'étranger, bien sûr que c'est une fierté.
La première chaîne de production de surgelés de poissons sauvages dans le Gers devrait être prête dans 6 mois.
Patrick Hisson dans le Gers pour RTL.
En Formule 1, une course totalement dingue au Grand Prix d'Arabie Saoudite.
Scénario à nouveau incroyable avec Lewis Hamilton qui s'impose sur la ligne d'arrivée. Le Britannique désormais à égalité de points avec Max Verstappen. Le dénouement de la saison, ce sera dimanche avec le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Et puis en football, la claque de trop pour Saint-Etienne. L'entraîneur Claude Puel mis à pied après une 9e défaite des Verts. 5-0 contre Rennes qui monte sur la 2e marche du podium et prend la place de Nice, sévèrement battu 3-0 par Strasbourg. Les autres résultats, Lyon cale après un nul 2 partout à Bordeaux. Très belle victoire de Monaco, 4-0 contre Metz. 1-0 pour Montpellier face à Clermont. Nantes s'impose 1-0 à Lorient. Victoire d'Angers, 2-1 contre Rennes. Enfin, en Ligue 2, suite et fin de la 17e journée à 20h45. Toulouse, le leader, se déplace à Niort.
Et puis du rugby, fin hier de la 12e journée du top 14.
Et la victoire du Stade français, 25-20 contre La Rochelle. Bordeaux-Bègles, le nouveau leader, après avoir fait tomber Toulouse. Enfin, en handball, deuxième match et deuxième succès des Bleus au Mondial. Les filles titrées à Tokyo ont battu la Slovénie 29-18 et sont assurées de jouer le tour principal. Prochaine rencontre, ce sera demain face au Monténégro.
On termine avec les courses qui ont lieu à Vincennes. Et non, pas du tout. J-2 avant le
J-2,
retour.
Mais
bien
on
sûr,
de
l'une des familles
plus.
Les plus cultes du cinéma français.
Oui, ils aiment les frites et avaient quitté Bouzol pour Monaco. On parle bien des Tuches. Ils sont de retour mercredi sur grand écran pour un quatrième volet de la saga. Mais certains ont déjà pu voir ces nouvelles aventures. Hier à Vannes, un maratuche était organisé avec les quatre films de la saga projetés pour le plus grand bonheur des spectateurs croisés par Mathieu Lopineau.
Avec Jeff Tuche, personne ne reste sur la Tuche.
C'est la première fois, jamais fait autant de films d'un coup.
Là, ça fait rigoler. Pour un dimanche, ça fait du bien.
Espèce de chômeur! T'es jaloux?
Bah pourquoi pas essayer, c'était la première fois que je faisais, j'avais jamais fait de marathon. Ça m'a tenté et puis je suis pas déçu de l'expérience quoi.
Tout le monde sait courir au ralenti. Courir au ralenti, c'est marcher.
L'un des grands classiques aussi, c'est tu peux perdre une carte mais pas 15, ça c'est incroyable.
Tu peux mettre 13 cartes, pas 15, tu peux mettre 14 cartes, pas 15, tu peux mettre 15 cartes, pas 15. Ah bah si, tu peux en fait.
Je me suis fait embarquer par ma fille pour le marathon des Tuches.
Une phrase culte ou...
Des frites.
Des frites, des frites.
Oui, ah oui, le 8 d'Isabelle Nanty, il est un peu culte. La mère Tuche, je dis pas oui, mais je 8 tout le temps.
Bon, là, on a la fan de la famille.
Ah non, bah si, un peu, mais pas trop.
Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire.
Ah oui, j'aime le mot, celle-là est bien aussi.
Repose en paix, ma Nevada. T'es chez toi maintenant.
Amen.
Ça permet de faire une pause et de poser le cerveau sur le côté, juste de rigoler, et puis voilà quoi. Jusqu'ici, ça fonctionne.
Noël, c'est comme les frites, c'est quand on veut.
Voilà, courir au ralenti, c'est marcher.
Bah oui,
c'est une belle philosophie. Hein.
Oui, il y a une logique dans tout
voilà,
cela. Alors, cette fois-ci, oui, on y a droit, les courses ont bien lieu à Vincennes, Hortense.
Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 4, le 5, le 12, le 3, le 13, le 11. La dernière minute, c'est le 5, escapade.
Et le journal de 7h nous était proposé par Hortense Crépin. Il est 7h11, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors ce que vous retenez Olivier de ce premier week-end de campagne présidentielle, c'est que la bataille du vote radical a elle bien commencé.
Oui effectivement, depuis ce week-end nous avons l'affiche complète de la présidentielle. Je considère qu'Emmanuel Macron sera candidat. Mais... Et nous avons assisté à l'ouverture d'une première bataille, la bataille pour capter les électeurs en recherche de radicalité. C'est un électorat qui veut que ça change et que ça change fort et vite. Et cet électorat est très courtisé.
Où l'avez-vous vu cette bataille de la radicalité?
Alors bien sûr, d'abord chez Éric Zemmour. Il a réussi à prouver hier dans son meeting à Villepinte qu'il était capable de sortir d'une forme d'amateurisme désormais présidentiable, pardon, comme on dit. Il n'a pas édulcoré son discours, charpenté pour son public. Il a esquissé quelques propositions, mais c'est bien avec le grand remplacement qu'il emporte la salle. Le meeting d'Éric Zemmour restera peut-être pour un moment à cause du Covid, d'ailleurs le plus grand meeting de la campagne. Et pour élargir son électorat, le candidat a deux cibles qu'il résume d'une phrase. Il veut rendre le droit de vote aux électeurs du Front National, dit-il, puisque voter FN ne servirait à rien. Et il veut rendre la droite aux électeurs LR. La fusion des droites reste son grand objectif.
Alors justement, Valérie Pécresse, la candidate LR, elle est bien embêtée. Hein.
Bah oui, Valérie Pécresse est sortie d'un processus interne avec une exigence de fermeté. Fermeté sur la sécurité, sur l'identité, sur l'immigration. La promesse du retour d'une vraie droite. Son concurrent, Éric Ciotti, 39% des voix au second tour du Congrès, est sur une ligne encore plus dure et bien décidé à lui rappeler. Voilà Valérie Pécresse sous la pression de la radicalité. Mais pour reconstituer son socle et décoller dans les sondages, elle doit capter une part des électeurs LR partis effectivement chez Éric Zemmour et une part des électeurs LR partis chez Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, c'est le grand rassemblement, pas encore tout à fait évident.
Et alors, alors à gauche aussi la radicalité de retour.
Alors oui, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting hier comme la gauche n'en a pas fait depuis longtemps. Avec ses militants, le candidat de la France Insoumise tente de trouver une dynamique qui lui fait toujours défaut. Jean-Luc Mélenchon n'a pas lésiné sur les fondamentaux d'extrême gauche pour en finir avec le capitalisme et l'argent qui pourrit tout. Les débats à droite semblent même lui redonner de l'énergie ou l'espoir d'être le premier opposant, le rempart contre les droites.
Et tout ça en attendant le seul candidat non déclaré, en fait, Emmanuel Macron.
Oui, vous allez attendre encore un peu. Hein. Emmanuel Macron ne sera pas candidat officiel avant plusieurs semaines. Le président sortant, par sa position avantageuse, au-dessus de la mêlée pour un temps, par sa politique qui se veut centrale et par sa bonne tenue dans les sondages, eh bien, Emmanuel Macron pousse tout le monde, en fait, à se démarquer plus que jamais, à être plus radical. Si bien que la bataille de la radicalité est bien la première des batailles de cette présidentielle.
Merci beaucoup Olivier Bost. On retrouve toute l'actualité politique en direct sur RTL.fr grâce à nos très bons dossiers préparés par la rédaction. On va maintenant vivre la politique dans le nord du pays.
RTL événement.
Et RTL est de retour ce matin à Emmerin. Emmerin, 3000 habitants à 10 minutes de Lille et qui a, je vous le rappelle, la particularité d'avoir voté exactement comme la France en 2017. C'est notre ville test. Lors de nos deux précédentes visites, nous avions parlé immigration, coût du travail, mais aussi solidarité et écologie. Et nous n'avions pas senti, disons-le, un grand enthousiasme pour cette campagne. Alors qu'en est-il aujourd'hui, alors que la droite vient de désigner son candidat et qu'Éric Zemmour a officialisé sa candidature? Bonjour Antoine Decarne.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et bien entendu, vous êtes rendu à Emmerin.
Oui Yves, parce qu'à Emmerin, c'était ce samedi un jour important, l'une des animations de cette fin d'année, le salon gastronomique Vigne, Houblon et Terroir, un nom évocateur. Alors on y est allé.
On a le champagne, du vin, de la bière locale, du cochon grillé et on a deux food trucks de notre estaminet local.
Alors je suis entré dans la salle polyvalente et je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps de déguster quoi que ce soit. Avec le micro rouge RTL et les deux précédents reportages, on se fait très vite remarqué, c'est même Madame la maire, Danielle Ponchot, qui m'embarque.
Je veux vous emmener rencontrer la vraie France, la France qui est celle qui nous veut du bien. Je vous emmène.
Elle me présente Pierrot, figure de la cuisine nordiste, qui lui est en train de manger.
Et là, on déguste en ce moment un petit peu de cochon rôti avec une pomme au four, mais il me manque un peu de beurre.
Et à table, Pierrot parle politique et s'amuse de la fréquentation de son restaurant.
On a une clientèle quand même un petit peu légèrement à droite. Par contre, quand il vient un gars de gauche avec des sous, on lui fait à manger quand même. Hein.
Attablé à côté, il y a Max, l'acolyte de Pierrot. Et cette semaine, c'est la déclaration de candidature d'Éric Zemmour qui l'a marqué.
Ça m'a choqué que M. Zemmour, au journal télévisé à 20h, il s'est permis de critiquer le journaliste fortement et bientôt à l'insulter. Et je trouvais que la façon dont il s'adressait à un journaliste, c'était pas normal. On est candidat et on respecte les gens.
Vous l'avez vu son clip de campagne?
Bah, son clip de campagne qui commence la même posture que le général de Gaulle, il lit une feuille. Ça me choque. Il copie tout le monde pour essayer de s'engager. On se demande qui va copier la prochaine fois. Il y a quand même des gens plus dangereux qui pourraient copier un jour. Quoi.
Bon, après ça, je suis quand même sorti voir les autres exposants.
Alors là, on a fait un jambon grillé rôti au miel.
Ça marche bien votre affaire?
C'est plutôt pas trop mal, ouais, je suis content.
Voici Rémi, il est chef d'une entreprise de traiteurs événementiels à Emmerin, à son compte depuis 3 ans, après avoir travaillé 20 ans dans la police. Lui aussi a été déçu par Zemmour.
En toute honnêteté, il y a quelques mois, je trouvais qu'il y avait quelques idées pas mal. Là, on part quand même un peu trop dans le n'importe quoi, je pense. C'est plus que de l'extrême, là, on est vraiment... Il s'égare un peu trop. Il se tue tout seul, en fait, dans sa façon de parler ou dans sa façon de faire. Il a perdu un peu de points, quoi.
On l'entend, il est franchement un peu perdu, d'autant que son favori, c'était le président de la région Hauts-de-France.
On pensait tous, je pense, que Xavier Bertrand allait être au deuxième tour et c'est pas le cas, donc moi je pense que ça va être des élections un peu bizarres.
Et bien justement Antoine, ce samedi c'était le deuxième tour du congrès LR et vous avez retrouvé Patricia, l'ancienne gérante du bar tabac que nous avions suivi lors de nos deux précédentes visites, toujours accompagnée de ses bergers allemands.
Oui, et Patricia m'a accueilli chez elle avec un grand sourire.
Allez-y, rentrez.
Comment vous allez Patricia?
Bah ça va, et vous?
Ça va.
Bah ouais, il fait froid, on ne peut pas rouler à vélo, ça c'est triste quand même.
Alors on entre dans le salon entre ces bergers allemands.
Regardez ce que j'ai sorti.
Les poules?
Oui. Quand les loulous ils sont dehors, à la maison, bah, les petites popoles, ils ont le droit de faire leur petit tour dans le jardin.
Puis on allume la télé pour les résultats.
Bah pour moi c'est Ciotti. Hein. Ah bah, eh. C'est la femme. Et voilà. Ah ben, il est sûr que je voterai pas pour Pécresse, moi, ça c'est sûr. Je vois mal une femme diriger la France, quoi.
Ah ouais, mais vous êtes une femme, pourtant.
Ben oui, mais il faut une femme de demain. Moi, je ne pense pas que Valérie Pécresse avait la main aussi droite et aussi ferme que Angela Merkel. Moi, je vois pas Pécresse à la tête de la France, hein. Honnêtement, non. Hein. Oh, là, ça me fait peur, quoi. Ah, puis en plus, j'aime pas les Parisiens.
Bon, du coup, elle est un peu déçue, Patricia. Malgré cela, une chose est sûre, elle ne se rabattra pas sur Zemmour. Elle ne l'aimait déjà pas beaucoup. Et c'est encore pire avec les événements des dernières semaines.
Le Zemmour, c'est pire de tout. Lorsque on prétend vouloir être président de la République et quand une femme vous fait un doigt d'honneur et que vous répondez par un doigt d'honneur, ben je crois qu'il a flingué sa campagne électorale, lui. Hein. De se prendre pour Charles de Gaulle, le grand Charles, avec ce vieux micro, là. Honteux.
Et avec tout ça, Patricia est encore indécise sur son vote.
Je vote pas Pécresse. Je ne l'aime pas. Je vote pas Zemmour parce que lui me dégoûte. Marine Le Pen ne s'est jamais permis de faire un doigt d'honneur à un Français. Hein. Jamais. Hein. Elle est moins extrême que Zemmour et je pense qu'elle représentera la France au deuxième tour, moi.
Bon, en tout cas, Yves, si on devait faire un peu le bilan de notre visite à Emmerin, c'est qu'avec les candidatures maintenant clarifiées, on parle un peu plus de la présidentielle, mais ça manque encore un peu d'enthousiasme.
RTL événement à Emmerin ce matin. Merci Antoine Decarne. Il reste 4 mois avant le premier tour de la présidentielle. RTL retournera évidemment régulièrement dans cette commune du Nord pour prendre le pouls de la campagne et des nouvelles de ses habitants. Je vous rappelle que ce village a la particularité d'avoir voté exactement comme la France en 2017. Dans un instant, l'engouement autour des robots de cuisine ne faiblit pas. Lidl sort aujourd'hui une nouvelle version de son super robot Monsieur Cuisine. L'occasion pour notre brigade de nous donner les chiffres sur ce marché en hausse permanente depuis le premier confinement. Et puis ensuite, nous retrouverons notre pépite musicale avec Anthony Martin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h21, c'est notre brigade RTL. Des files d'attente de caddies, des scènes de cohue, des bousculades parfois. Le tout pour un robot de cuisine. Monsieur Cuisine, de chez Lidl, pour être précis. Le nouveau sort aujourd'hui. Nous serons d'ailleurs devant un supermarché dans le journal de 8h. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Yves.
Alors vous vous penchez sur cet engouement des Français pour la cuisine à la maison. C'est le thème de la brigade RTL et le grand tournant, eh bien, c'est le premier confinement.
Oui, parce que les pâtes au beurre, ça va 2 minutes. Souvenez-vous, à ce moment-là, c'était 2 repas à faire chaque jour, tous les jours, pendant 2 mois et pour toute la famille. Beaucoup de Français se sont rendus compte qu'il était important de savoir ou au moins de pouvoir cuisiner à la maison. Ils se sont donc équipés. Les ventes de petits électroménagers de cuisine ont décollé d'un seul coup, notamment chez Moulinex, comme le raconte la porte-parole de la marque, Anissa Jati.
Je pense notamment aux robots qui vous permettent de cuisiner en vous laissant guider pas à pas. Donc ça, on a vraiment eu une progression, une croissance assez notable de l'ordre de 30%. Nous avons également enregistré une progression de l'ordre de 40% des machines à pain. D'autres produits également comme les yaourtières. Voilà, vraiment des produits qui permettent de faire soi-même des choses que l'on achetait auparavant.
Pour les robots de cuisine, Yves, on parle d'objets qui peuvent valoir jusqu'à 1300 euros. C'est en gros une machine qui sait tout faire. Elle découpe, elle bat, elle hache, elle cuit, elle vous fait des glaces et des gâteaux. Et c'est vraiment là-dessus que misent les marques. Elles investissent massivement en recherche et développement pour sortir régulièrement de nouveaux modèles. Les robots doivent être toujours plus perfectionnés. De nouvelles recettes sont développées presque tous les jours. Les marques s'arrachent les chefs les plus médiatiques. C'est vraiment la guerre des robots.
Et ça, Pierre, ce n'est que des illustrations de ce succès de la cuisine à la maison depuis le début de la crise.
Oui, il y a les livres de cuisine aussi qui cartonnent. La série des faits maison de notre camarade Cyril Lignac s'est écoulée à plus d'1 million d'exemplaires. Les audiences du site spécialisé 750 grammes crèvent également le plafond, raconte son directeur Antoine Meunier.
On a à peu près doublé les audiences du site 750 grammes sur toute la période du confinement de mars au mois de mai. Et avec après un résidu d'audience à peu près 30% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire qu'on a vraiment un engouement des Français qui a perduré.
Et puis, qui dit recettes et équipements de cuisine, dit aussi ingrédients. Après l'année dernière record, en 2021 encore, les ventes de poivre et d'épices chez Ducros sont en progression de 12%. Chez Vainé, les pépites au chocolat, Yves, font plus 41%.
Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Dans un instant, notre pépite musicale avec Anthony Martin. Et ensuite, nous retrouverons nos grosses têtes et Louis Baudin, que je salue pour notre météo.
Bonjour Yves.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
On retrouve avec plaisir notre pépite musicale quotidienne.
Alors on va démarrer comme ça. America, une des plus grandes chansons de la comédie musicale et du cinéma américain, composée par Leonard Bernstein sur un texte de Stephen Sondheim qui nous a quittés il y a 10 jours. Alors ça, ce qu'on entend, c'est le tout premier enregistrement hein, par Chita Rivera et les filles en 57 à la naissance de West Side Story sur scène à Broadway. Pépite, le morceau fut adapté en français dans les années 60 par Dario Moreno.
Moi, tous les enfants que j'aurai auront peut-être les yeux clairs.
des taches de rousseur, mais que faire? Sur mon passé, je tire un trait. Oui, oui, oui. On est allé en Amérique, qu'allez nous faire en Amérique? Cherchez à porter en Amérique, trouver l'amour en Amérique.
Les facéties de Dario Moreno, qui n'a rien à voir avec Rita Moreno, hein, l'actrice portoricaine oscarisée pour son rôle dans la version cinéma de West Side Story en 61. Le film avait reçu 10 Oscars, 60 ans sont passés, et le réalisateur Steven Spielberg redonne vie à West Side Story. Son film met un gros coup de vieux, la version de 61 sort mercredi, et la bande originale est elle aussi dépoussiérée. Voici la version 2021 de la chanson America, interprétée par les acteurs du film de Spielberg.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you're all white in America.
La partition de Bernstein, extrait de la comédie musicale, donc du film événement West Side Story de Steven Spielberg, à découvrir dès mercredi au cinéma. Et Rita Moreno a un rôle dans cette nouvelle version ciné Spielberg, version très proche de la comédie musicale d'origine.
Merci Anthony, on se dit à demain et tout à l'heure à 9h, Stéphane Boutsock nous emmènera à New York sur les traces du film West Side Story de Steven Spielberg. On entendra les confidences du réalisateur. Stéphane m'a dit qu'il avait adoré le film. Les grosses têtes et la météo dans un instant.
RTL Matin jusqu'à 9h30
avec Yves Calvi.
RTL Matin.
Chaque après-midi, c'est notre rendez-vous avec les grosses têtes entre 15h30 et 18h. Et ne soyez malheureux, vraiment pas surpris si vous les croisez dans le métro.
Oui, je prends le métro. Oui.
Bah moi aussi, monsieur.
Oui, je mange des
crêpes. Je suis venu en métro. Alors, attends,
le matin.
Je sors du métro, monsieur, je ne vous ai pas vu.
Oui, non, oh, j'ai envie d'avoir des preuves.
On vous reconnaît dans le métro?
Non, parce que j'enlève mes lunettes, je mets un masque.
Il enlève la perruque.
Il met une perruque
et une robe bleue.
Moi, personnellement, j'aime beaucoup le métro parce que c'est un des seuls endroits et moments dans la vie où on peut être
où
tous...
on peut draguer.
Non, agglutiner les uns aux autres, sentir un peu les odeurs. Non, mais c'est des moments humains, en fait, assez rares.
Ariel, est-ce que vous savez ce que c'est un frotteur?
Ariel, c'est embêtant pour elle, parce que quand elle descend au métro, les gens la prennent pour la barre. Alors, ils sont tous là. Ils sont tous là à s'accrocher.
Mon Dieu, Ariel. Allez, cet après-midi dans le grand studio, Gérard Hernandez, Sébastien Thoen, Daniel Evenou, Christine Bravo, Elie Semoun et Bernard Mabille. Et puis je vous donne un autre rendez-vous chaque jour à 16h sur l'application RTL, mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast pour découvrir Focus, c'est le podcast quotidien de la rédaction d'RTL. Marion Calais vous emmène chaque jour au cœur d'une histoire de l'actualité du jour, un récit d'une dizaine de minutes. Allez faire un tour sur l'application pour découvrir les précédents numéros. Louis Bodin, où en sommes-nous avec notre météo agité?
On en est à toujours beaucoup de nuages, hein. Beaucoup de nuages, effectivement, temps encore agité aujourd'hui, avec des nuages quasiment partout, allez, une plus belle lumière peut-être près de la Méditerranée, et encore là aussi on aura un voile nuageux assez épais, le tout accompagné de Mistral et de Tramontane jusqu'à 90 km/h cet après-midi. Dans les autres régions, donc des nuages, encore des nuages, toujours des nuages, avec de la pluie, alors pluie qui deviendra continue sur toute la moitié ouest cet après-midi, ça sera plus dispersé dans les régions du nord-est, où là aussi quand même on aura des nuages, il faut avoir parfois quelques brouillards persistants. Côté température, pas mieux, des gelées ce matin, notamment dans la moitié est. On a un moins 9 par exemple à Briançon en ce moment, moins 1 à Charleville-Mézières. Et cet après-midi, 3 à 5 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est, 7 à 10 degrés dans les régions du nord-ouest. Ça remonte un petit peu par rapport à hier, 10 à 14 dans la moitié sud.
Et vous restez avec nous pendant toute cette matinale, les bonnes. Il est 7h30.
RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 6 décembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si l'école fermait plus tôt que prévu? Un nouveau conseil sanitaire se tient ce matin à l'Élysée pour trouver la parade face à la montée de la cinquième vague épidémique. Plus de 42 000 nouveaux cas hier, un taux d'incidence à 400, il a doublé en une semaine et il s'envole littéralement chez les enfants à plus de 1000 dans une trentaine de départements. Les vacances anticipées, est-ce la bonne solution? Réponse de Mircea Sofonea, professeur d'épidémiologie à l'université de Montpellier.
Bien sûr, ça aurait un impact, évidemment, sous condition, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en profiter pour remplacer ce temps-là par des fêtes privées sans geste barrière, on est bien d'accord. S'il s'agit bien d'une semaine où, justement, on limite nos interactions sociales et le brassage, bien oui, ça aurait un impact positif.
Propos recueillis pour RTL par Odile Pouget. Toutes les décisions ne seront pas prises aujourd'hui. Le conseil scientifique doit encore se réunir demain. Une annonce pourrait intervenir jeudi. Peut-être la fin des cours en présentiel dès le mercredi 15 décembre.
Et ce sera l'objet de notre débat à 8h20. Le premier meeting d'Éric Zemmour hier à Villepinte. Exercice réussi, mais marqué aussi par des violences.
Le polémiste candidat a réuni quelques 10 000 personnes au parc des expositions. On sait maintenant que son parti s'appelle Reconquête. Dans un discours d'une heure et demie très applaudi, il a dénoncé à nouveau le grand remplacement et le grand déclassement de la France. Mais il s'est défendu d'être raciste. En marge de ce discours, des affrontements ont éclaté dans la salle quand des militants ont exhibé des vêtements aux couleurs de SOS Racisme. Ils ont été tabassés par des participants au meeting avant d'être exfiltrés par le service de sécurité. Sylvia Tabi, une militante, est sortie le visage en sang.
Ils nous ont roués de coups, ils nous ont poussés, ils nous ont lancé des chaises dessus. On s'est retrouvés entourés de je sais pas de combien de personnes. J'ai senti du sang couler sur mon visage, ça m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai eu peur, j'ai pas compris parce qu'on s'attendait à recevoir des insultes, peut-être à se faire bousculer, mais on s'attendait pas à se faire éclater au sol. Un meeting politique, c'est le lieu de la démocratie. Et donc se faire casser la gueule parce qu'on lève le poing avec un t-shirt qui dit non au racisme, ah, ça dit quelque chose.
Propos recueillis par Valentin Boissé. Notez que de son côté, Éric Zemmour a été agrippé par un jeune homme alors qu'il se dirigeait vers la tribune. Il a été blessé au poignet, 9 jours d'arrêt de travail. Le jeune homme de 27 ans, lui, est en garde à vue. Il est connu pour des faits de droit commun, mais il n'est pas fiché. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, lui, était en meeting à La Défense et le leader de la France Insoumise se positionne clairement en premier opposant à l'extrême droite.
Non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique. C'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche. La France, qui croit à la République, non pas pour sempiternellement parler des forces de l'ordre, mais pour sa devise, liberté, égalité, fraternité, à tout être humain.
Propos recueillis par William Galibert. Les 80 km/h sur les routes secondaires ont du plomb dans l'aile. 37 départements sont déjà repassés à 90, comme la loi les y autorise. Et ce n'est peut-être pas fini. La mesure donne pourtant de bons résultats en termes de sécurité routière. C'est ce qu'explique Nicolas Gou de la Ligue contre les violences routières de l'Hérault.
Chacun sait qu'aujourd'hui, le 80, sur une période d'une année, a sauvé 349 vies et a permis d'économiser 700 millions d'euros sur le budget de soins, etc., de secours. En gros, vous avez 13 mètres de distance d'arrêt en moins quand vous roulez à 80 par rapport à 90. 13 mètres, c'est la longueur d'un semi-remorque. Donc ça peut permettre effectivement d'éviter un accident sur un refus de priorité ou autre, puisque la problématique, elle est vraiment là.
Propos recueillis par Hugo Hamelin. Attention, si vous devez vous déplacer ce matin dans la métropole lilloise, aucun métro, il y a grève. Les deux lignes sont fermées et pas de bus de substitution. Le trafic devrait reprendre à partir de 13h. À l'étranger, Aung San Suu Kyi est condamnée à 4 ans de prison par la junte. On cherche à asphyxier les libertés, c'est ce que dit à l'instant Amnesty International.
Le sport avec en Formule 1 un véritable scénario de film.
Ah oui, plus qu'un grand prix avant la fin de la saison et le suspense est entier car Lewis Hamilton s'est imposé hier dans le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il revient à égalité parfaite avec Max Verstappen, Frédéric Veil.
L'hymne britannique hier soir pour Lewis Hamilton avec une victoire qui relance complètement la course au titre mondial puisque le pilote Mercedes avec cette troisième victoire de suite revient à la hauteur de Max Verstappen alors que le Néerlandais avait encore 19 points d'avance sur Hamilton à 4 courses de la fin. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le jeune pilote Red Bull très déçu à l'issue de ce Grand Prix très animé n'est pas resté sur le podium à la fin fin de la remise des prix. Cela se jouera donc lors du 22e et dernier rendez-vous de la saison dimanche prochain à Abu Dhabi, avec un titre mondial qui se jouera entre l'expérience du septuple champion du monde et la fougue du talentueux Verstappen. Vivement dimanche prochain.
Frédéric Veil. Le foot, Lyon a manqué une belle occasion de se refaire hier soir. L'OL a mené deux fois mais s'est fait rattraper par Bordeaux. Score final 2-2. Rennes a repris sa place de dauphin en étriant Saint-Etienne 5-0. C'est la défaite de trop pour les Stéphanois Lanterne Rouge. L'entraîneur Claude Puel est remercié. Au cinéma, Les Tuches 4 s'annoncent comme le carton de la fin d'année, mais il y aura aussi West Side Story, grand classique de la comédie musicale revisité par Steven Spielberg. Ça sort mercredi. Le réalisateur a mis longtemps à accepter le projet. Il a un peu galéré, il faut le dire, sur le format danse et chant.
Il y a une différence majeure entre un film d'action comme Il faut sauver le soldat Ryan et une comédie musicale. Dans les scènes d'action, je ne suis pas contraint par la durée ou le tempo ou les mathématiques de la musique. En plus, je n'ai jamais été bon en maths. Et voilà que je fais une comédie musicale où tout est mathématique. Heureusement, plein de gens m'ont aidé, comme le super chorégraphe Justin Peck. Et croyez-moi, ça a été un boulot monumental. Here come the jets, little world's left aside. Better go underground, better run, better hide. But draw the line, so keep your nose hidden.
Woodstock, le monsieur cinéma d'RTL.
Dont nous entendrons l'intégralité de l'entretien à 9h dans Laissez-vous tenter. On se retrouve nous à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, et je vais vous parler du shifting, cette nouvelle lubie adolescente pour voyager dans sa tête.
A tout à l'heure, Isabelle. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h36, vous avez suivi attentivement hier le premier meeting d'Éric Zemmour.
Oui.
Et ce matin, c'est son programme économique que vous passez au crible.
On fait ça dans un instant, en effet.
Il est 7h38, l'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors, faut-il rappeler qu'hier, Éric Zemmour, désormais candidat à la présidentielle, a livré quelques éléments de son programme économique, hein.
Oui, en matière de fiscalité, on pourrait appeler ça la compile. C'est un digest de toutes les propositions qu'on a entendues dans la campagne des primaires à droite. Programme de droite dans lequel Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont d'ailleurs aussi fait quelques emprunts. Pour résumer, Éric Zemmour veut moins d'impôts et moins de charges, j'allais dire, sacrée surprise.
Pas très original donc, c'est ça ?
Non, pas du tout. Cela étant dit, bon, cette idée de baisser les charges, elle souffre pas d'être banale, mais de ne pas être appliquée.
Quelles charges veut-il baisser exactement ?
Il souhaite augmenter le salaire net des Français, oui, en réduisant les cotisations sociales qui frappent leur salaire. Ça représenterait 100 euros mensuels au niveau du SMIC pour, dit-il, rendre aux Français l'équivalent d'un 13e mois de revenus en plus. C'est exactement la formule de Marine Le Pen, hein, qui a le même objectif. Il veut aussi supprimer les droits de succession pour la transmission des entreprises, baisser les impôts de production, ces taxes sur les entreprises qui sont indépendantes du chiffre d'affaires. Bon, ça c'est le programme Macron-Le Maire qui l'ont d'ailleurs entamé. Il veut aussi abaisser l'impôt sur les bénéfices pour les PME, qui souvent en effet payent davantage en proportion que les grands groupes.
Bon, alors on imagine que tout cela fait pas mal d'argent, non ?
Oui, pour la seule mesure sur les charges sociales, il y en a pour plusieurs dizaines de milliards. Bah, le reste, c'est assez difficile à évaluer, parce que jusqu'ici, il ne fait état que d'intentions assez vagues.
Mais alors, où compte-t-il trouver l'argent ?
Pas un mot. Alors, on comprend implicitement qu'il veut faire des économies avec la lutte contre les fraudes aux allocations diverses, et puis en limitant le bénéfice des aides sociales aux Français et aux membres de l'Union européenne. Pour mémoire, c'est aujourd'hui interdit par le Conseil constitutionnel, hein, c'est une décision de janvier 90 qui empêche de faire la différence entre les assurés en fonction de leur nationalité. Il faudrait donc changer la Constitution. Zemmour spécule à ce propos sur plusieurs dizaines de milliards d'économies. Bon, ça semble quand même très optimiste. Et il veut aussi allonger la durée de carrière des Français. Bon, ça c'est plus sérieux.
Oui.
En retardant progressivement l'âge légal de la retraite à 64 ans. Bénéfice pour les régimes sociaux, environ 15 milliards de recettes supplémentaires.
Alors, il parle toujours beaucoup d'industrie. À titre des mesures spécifiques ?
Il en a évoqué une hier. Réserver les commandes publiques, celles de l'État, des municipalités, des régions, des entreprises publiques même, à des sous-traitants français. Bah, ça semble tout bête, oui, et pourtant c'est interdit par les traités européens qui imposent que le décideur public retienne le meilleur prix, même s'il émane d'un fournisseur chinois ou patagon. Et c'est d'autant plus saugrenu qu'en Chine ou aux États-Unis, justement, les commandes publiques sont réservées aux entreprises locales. Honnêtement, c'est du bon sens. L'Europe l'a interdit parce qu'elle s'est construite sur la lutte contre le nationalisme, contre la frontière. Bon, il serait quand même temps de dépoussiérer un peu ça et de réserver ces quelques 10% du PIB, oui. C'est beaucoup, hein, au moins aux entreprises européennes. Voire, c'est pas saugrenu, pour les commandes régionales, ben, aux entreprises bretonnes en Bretagne et puis provençales en Provence. Bon, en clair, c'est une bonne idée. Il faut dire qu'elle n'est pas non plus très originale. Si on faisait le best-of des programmes depuis 15 ans, elle serait probablement en tête. Et elle n'a toujours pas été appliquée parce que ce n'est pas si simple. Il faut convaincre l'Europe.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site rtl.fr. Il est 7h41. Bonjour Alban Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin?
Le PDG de Dassault, Éric Trappier. Dassault vient de signer le contrat le plus important de son histoire. 80 Rafales vendues aux Émirats Arabes Unis.
A tout de suite avec le patron de Dassault Aviation.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier.
Bonjour Éric Trappier.
Bonjour.
Alors que le président Macron était en tournée dans le Golfe, vous avez annoncé une commande de 80 Rafales par les Émirats Arabes Unis. C'est un contrat de 14 milliards d'euros, sans compter les armements. C'est le plus gros contrat jamais signé par Dassault Aviation. Cela vient après plusieurs succès, mais ça veut dire que ça y est, enfin cet avion est reconnu à sa juste valeur ?
Oui, je crois que le Rafale, depuis son exportation à l'Égypte, puis à l'Inde, qui est quand même un très grand pays, a prouvé ses capacités opérationnelles, grâce d'ailleurs aux forces armées françaises qui l'utilisent, qui le montrent. Mais depuis ses livraisons, ça s'est vu, par exemple en Inde, on voit comment l'Inde utilise déjà ses avions, ou l'Égypte utilise déjà ses avions. Et donc ça fait une référence qui est reconnue par les pays dans la région. Il faut aussi dire que tous ces pays ont eu des Mirage 2000, et que c'est l'heure du remplacement de ces Mirage 2000, qui étaient aussi des très bons avions. Il fallait être un petit peu patient et attendre que le Mirage 2000 soit renouvelé par des avions français, le Rafale.
Parce qu'on disait qu'il était invendable cet avion. Donc pourquoi ça marche cette fois? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Ben, je crois que ceux qui disaient qu'il était invendable doivent se reprendre et reconnaître cette réussite, qui est une réussite française. Il était un petit peu en avance de son temps, sur son temps. C'est-à-dire que quelque part, ses capacités de polyvalence sont reconnues maintenant et qu'à l'époque, il a fallu attendre un petit peu avant que ça arrive. Ça a été un programme assez long.
Vous diriez aussi que c'est le désintérêt des Américains dans la région qui fait que cette vente a pu se faire, ça a
Toute
joué.
Exportation d'avions de combat a un volet prioritaire qui est le volet stratégique, la relation entre deux pays. Donc, par défaut aussi, la relation avec d'autres. Et je crois qu'un certain nombre de pays aujourd'hui veulent un petit peu rééquilibrer leurs approvisionnements parce qu'ils veulent rééquilibrer leurs relations stratégiques avec un certain nombre de pays
alliés.
Pas tout
miser, par exemple.
Pas mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dirait.
J'ai lu que ce contrat, Éric Trappier, avait mis 13 ans à aboutir. C'est vrai, 13 ans, c'est beaucoup.
Oui, je pense que 13 ans est un faux chiffre. On travaille sur les Émirats Arabes Unis avec le Mirage 2000 depuis très longtemps. On a même à une époque fait des propositions de Rafale et puis finalement on a vendu du Mirage 2000-9. Je suis bien placé pour le savoir. Et donc il fallait attendre que le Mirage 2000-9 arrive un petit peu en fin de vie pour que le Rafale arrive. Donc ça fait à la fois plus de 13 ans. Par contre, cette dernière négociation, elle a duré moins d'un an.
Et c'est vous qui êtes à la manœuvre ou c'est le président de la République, c'est le ministre de la Défense? Qui négocie?
C'est un travail d'équipe. Donc, le président, de par le fait qu'il a à entretenir cette relation stratégique avec les Émirats Arabes Unis, ce choix, il est devant, car il est celui qui rend le contexte favorable. Ensuite, la négociation du contrat, la négociation des spécifications, la relation ancienne que nous pouvons avoir avec ce pays-là, c'est Dassault qui la prend et qui l'assume et donc qui négocie ce contrat.
Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, est-ce qu'il vous importe de savoir à quoi vont servir ces avions ?
Oui, bien sûr, toujours. On regarde comment ces avions sont utilisés, mais je vous rappelle que l'exportation est interdite en France de matériel de militaire. C'est donc une autorisation gouvernementale et donc c'est bien une volonté politique d'exporter. Et donc l'utilisation de ces avions, oui, on soutient les armées sur lesquelles on a vendu. La relation politique, c'est elle qui fait qu'on a le droit de vendre dans tel ou tel pays parce que c'est l'intérêt de la France vu par le gouvernement français.
Mais le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean, disait que c'était évidemment pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous êtes certain que ces Rafales ne seront pas utilisées par les Émirats dans le conflit au Yémen, par exemple?
Bah, écoutez, c'est pas à moi à le vérifier.
Mais ça vous importe?
Oui, on regarde comment nos avions sont utilisés. Bien sûr que ça nous importe.
Éric Trappier, avec un contrat pareil, les chaînes de production vont tourner à plein régime. Il y a du travail pour combien de temps et pour combien de personnes ?
Alors, on redouble la chaîne de fabrication aujourd'hui. Donc, on était repassé à une cadence de 1. Nous allons repasser une cadence de 2, voire un petit peu plus. Et donc, ce sont des milliers d'emplois, non seulement chez Dassault, mais chez nos grands partenaires, Thales et Safran, mais aussi les 400 petites entreprises qui travaillent sur le programme, qui sont très heureuses, dans un contexte pas facile lié au Covid, pour l'aéronautique, qui sont très heureux de pouvoir avoir ce socle que constitue la fabrication du Rafale.
Mais alors, cette fabrication, elle dure combien ? Pour un Rafale, il faut combien de temps ?
Il faut 3 ans pour fabriquer un Rafale. Il faut 1 an de plus pour monter la cadence de 1 à 2. Donc, dans 4 ans, on est prêt à commencer à livrer les avions. En réalité, comme on a vendu l'avion le plus moderne qui soit, le développement de cet avion modernisé est en cours pour les forces armées françaises. Donc, les livraisons commenceront à partir de 2026.
D'accord. Et vous allez embaucher ?
Nous allons embaucher.
Est-ce qu'on a les bras pour fabriquer ?
En fonction du plan de charge, parce qu'on a aussi notre partie civile. Vous savez qu'on est dual, donc il y a le civil aussi. Est-ce qu'on arrive à embaucher ? Bah, écoutez, moi je crois que travailler chez Dassault, beaucoup en rêve, donc on n'a pas trop de difficultés pour embaucher de l'ingénieur au compagnon chez Dassault.
Vous ne souffrez pas de pénurie ?
On souffre pas encore de pénurie, c'est un sujet quand même complexe. Il y a des pénuries dans les composants, comme vous le savez, il y a des pénuries sur la matière, de manière générale dans l'industrie. Donc pour l'instant, on la subit pas directement, mais on la craint.
Mais vous n'arrivez pas à quantifier le nombre de personnes dont vous allez avoir besoin, y compris chez les sous-traitants, pour fabriquer tous ces rafales ?
Si, on le quantifie, c'est plusieurs milliers de personnes qu'on va devoir embaucher. Bah, écoutez, on va ajuster en fonction des charges. Si vous voyez, les sous-traitants ont moins de travail dans le civil, ils ne vont pas forcément embaucher beaucoup. Ils vont embaucher un peu, mais pas forcément beaucoup. Mais les gens qui étaient, entre guillemets, au chômage partiel vont se mettre à travailler sur le Rafale.
Et dites-moi, ils sont fabriqués en France intégralement, ces Rafales ?
Ils sont fabriqués entièrement en France, oui.
Entièrement ?
Entièrement,
100%.
Dans tous nos territoires français. C'est vraiment, comme beaucoup de l'industrie de défense, l'industrie de défense soutient l'emploi en France, en région, en territoire. C'est ça, là. Aussi une des forces de l'industrie de défense.
Et il va y avoir des transferts d'activité vers les Émirats ?
Non, pas du tout. Tous les avions seront entièrement fabriqués ici en France. On soutiendra notre client émirien au travers le soutien des avions, toute la maintenance. On enverra des équipes pour les aider à faire ça. Mais la fabrication est entièrement faite en France.
Et pour former les pilotes aussi, j'imagine que...
Former les pilotes ici en France, dans l'armée de l'air française. L'armée de l'air française qui entretient une relation privilégiée aussi avec son counterpart émirien, va former les pilotes. Et nous aussi, Dassault, on formera en particulier les mécaniciens, les techniciens, tous ceux qui sont autour de l'avion.
La principale concurrence, c'est l'américain, c'est le F-35, c'est bien ça ? C'est l'avion de chasse F-35 ?
Oui, ça a été pendant longtemps le F-16 et le F-18, mais le F-15, il commence à être assez ancien, beaucoup plus ancien que le Rafale. Donc le Rafale est l'avion de référence moderne. Le F-35 est un avion principalement d'attaque au sol. Le Rafale est plus polyvalent, il permet la défense aérienne, il permet des missions un petit peu plus larges et un peu plus variées. Et puis les Français, c'est un avantage. Je pense que le fait que ce soit une réussite française n'est pas non plus aussi indépendant du fait que le Rafale est un avion français.
Et les prochains contrats, j'entends parler de la Finlande, de l'Indonésie.
Oui, on attend. Vous savez, on est toujours prudent avant. Donc,
c'est une question de concurrence.
L'Indonésie a vraiment montré son intérêt pour acheter du Rafale. Donc, pour nous, ça serait intéressant. Ça serait un deuxième pays qui n'a jamais eu d'avion d'assaut, très lointain, au-delà de l'Asie. Donc, ça serait une belle réussite.
Éric Trappier, juste une question d'actualité. Qu'est-ce qu'un grand patron comme vous aurait envie de dire aux candidats à la présidentielle ?
Bah, écoutez, les candidats à la présidentielle, on leur dit déjà, soutenez l'industrie. Il n'y a pas de souveraineté.
Vous avez vu qu'ils ont que ce mot à la bouche.
Il n'y a pas de souveraineté sans industrie, et donc je crois que ça c'est vraiment une priorité. Deuxièmement, soutenez l'industrie de défense, car c'est aussi dans la souveraineté une souveraineté très importante avec de l'emploi de qualité, de haut niveau et de valeur ajoutée en France. Donc soutenez l'industrie d'une manière générale, soutenez l'industrie de défense, soutenez les avions de combat.
Merci beaucoup Éric Trappier.
Merci.
Du travail jusqu'à 2030 pour Thales, pour Safran et 400 entreprises françaises, vient de nous dire Éric Trappier, le PDG de Dassault. Il faut 3 ans pour construire Rafale, avion intégralement construit en France. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Restez avec nous Éric Trappier puisque vous êtes ce matin dans l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour Philippe.
Ben tiens, bonjour.
Notre invité Éric Trappier, PDG du groupe Dassault, est resté pour votre chronique.
Ah, Top Gun, Yves.
Ah bah oui.
On a tous rêvé d'être Maverick. En tant que spécialiste de l'avion de chasse, Éric Trappier, vous êtes un peu le Tom Cruise français. Sans la scientologie et le botox dans le front. Vous venez de signer le plus gros contrat de l'histoire de Dassault. 14 milliards! Ah oui, là, oui, oui, on peut, là. Ça sent la prime de Noël à la fin du mois. Alors vous, votre truc, c'est les avions. Moi, c'est plus les vannes, mais ah j'en oui. ai jamais vendu pour 14 milliards. Hein. Bon, c'est vrai que par rapport au Rafale, ça vole peut-être moins haut, ce que je vends. 14 milliards! Putain, c'est énorme. Quand on pense que le Téléthon n'a récolté que 74 millions, on a envie de dire aux petits myopathes, sortez de votre zone de confort, on prend sa petite boîte à outils et on va construire des Rafales. C'est pas sorcier, il doit y avoir des notices.
Bon, alors Philippe, on est souvent critique sur les ventes d'armes, mais elles servent aussi au maintien de la paix.
Mais absolument Yves. Et puis tout est dangereux si on va par là. Les petits vieux s'étouffent souvent avec des cacahuètes. Faut-il pour autant interdire la vente de cacahuètes? Je ne le crois pas. Il n'y a qu'à mettre un avertissement sur les armes. Attention, tuer tue. Voilà, comme ça les gens sont au courant.
Vous êtes un humaniste.
Moi je suis un humaniste, oui. Vous le savez. Mais pour 14 milliards, j'aurais pas beaucoup d'état d'âme. Ah, oh, à ce prix-là, j'aurais même vendu des camionnettes à Michel Fourniret. Ah, je lui mettais un petit coup sur le pare-brise, je lui faisais le plein. Michel, bonne journée. Voilà. Alors, en tout cas, c'est pas la première fois. C'est la première fois qu'on vend de la technologie à Dubaï, à ce niveau-là en tout cas. D'habitude, on leur en vend juste des Instagrammeuses en silicone.
Et là, c'est la guerre mondiale de 78.
La guerre mondiale de 78. On ne connaît pas toutes les guerres mondiales. Non, on vérifiera quand même. On
devait vendre 63 Rafales et au final, ils en ont pris 80.
C'est parce qu'Éric n'a pas qu'une formation d'ingénieur. Il a aussi un CAP de boucher. Il a fait le coup classique. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bon, et voilà, ils ont dit banco. Alors, les navions vont être livrés entre 2027 et 2031. On est déjà sur de la belle fourchette. Hein. Quand le livreur Amazon me dit « je passerai entre 10h et 19h », ça m'agace. Mais là, 2027-2031... Ça fait longtemps à attendre à la maison quand même. Hein.
Alors, revenons-en maintenant à l'événement politique du week-end. Hier, chouette. Pour son premier meeting, Éric Zemmour a réuni plus de 10 000 personnes. Un meeting marqué par des violences.
Non, il y a eu des tensions.
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai.
Oh. Alors, comme ça, les pro-Zemmour n'ont pas bien accueilli les journalistes de quotidien, les militants antiracistes. Ça m'étonne, ça. Vous avez vu, mon Riri s'est fait sauter dessus. 9 jours d'ITT pour un câlin appuyé. Ah, il est en chips, Eric. Ah, c'est pas Jonah Lomu ou Sébastien Chabal. Hein. Non. Il est tout fragile. Il est peut-être made in China, on ne sait pas. Alors, son parti va s'appeler Reconquête. Alors, j'espère qu'il parle de la France et pas de sa femme. Parce que sa femme s'est mal barrée. Je ne suis pas conseiller conjugal, Yves, mais quand tu patauges en moule bite en milieu aquatique, en couve de Paris Match avec ta conseillère de 28 ans, que tu as mis enceinte 30 minutes avant... Ah, faut plus qu'un bouquet de jonquilles pour te faire pardonner. Hein.
Alors, depuis samedi, on connaît par ailleurs la candidate des Républicains, ce sera Valérie Pécresse. On a donc Marine Le Pen, Anne Hidalgo, et maintenant Valérie Pécresse en candidate, voilà.
Ça va, mesdames? On vous dérange pas trop, nous, les hommes? C'est quoi la prochaine étape? Le droit de vote? C'est plus une élection présidentielle, c'est une réunion tupperware. Hein. Bravo, en tout cas, Valérie Pécresse. Hein, c'est pas mal quand on compte 101 féminicides de voir une femme mettre une branlée à 4 bonhommes. Ça fait du bien, ça nous change. Vous l'avez vu, Valérie, au journal de 20h de TF1 avec... Oh, c'est plus mou qu'Éric Zemmour. Elle a même pas traité Anne-Claire Coudray de connasse en partant, alors que ça se fait normalement quand on part. En tout cas, ma Valérie Pécresse tente de casser son image de bourgeoise parisienne et elle place systématiquement qu'elle a des cousins partout en France.
L'été, on fait des grandes tablées, on est mandés. En plus, on retrouve tout le temps les tas de cousins des collègues de maman qu'on n'a pas vu depuis des années, qu'on est vite énorme.
Oui, bah vas-y doucement quand même, Valérie. On n'est pas prêt quand même au changement noir.
Enfin, rappelons que Pierre Rabhi est mort à l'âge de 83 ans.
Ah, on perd un grand monsieur de l'écologie, un des rares qui n'avait pas le zizi migrateur. Et c'est une espèce protégée chez les Verts, le mâle monogame. C'est très rare. Alors, Pierre aurait eu des propos un chouille homophobe, mais il avait l'homophobie champêtre, une homophobie à bretelles, donc ça allait. Et puis, c'était un philosophe attachant. Pierre Rabhi était célèbre pour partager sa métaphore du colibri. Cela dit, Nicolas Hulot aussi est connu pour avoir voulu montrer son colibri à tout le monde. Et lui, on l'engueule. Comme quoi, il y a deux poids, deux mesures, parfois, Yves.
Bah alors, Philippe, avant de nous séparer, je crois que nous avons quelqu'un pour vous au téléphone. Bonjour, Albert Matteux-Crabeau.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maire de Sochaux et je crois que vous avez un petit message à faire passer à ce bon Philippe. Ben oui.
Oui, je suis très très heureux de l'avoir ou de Philippe parce que je l'ai entendu parler à plusieurs reprises de Sochaux. Ouais. Alors, je me demande s'il est venu souvent.
Trop. Oui, oui. Non, c'est pour ça.
Alors, non, non, parce que je me souviens de notamment qu'une fois, vous aviez dit que vous aviez pris le train Sochaux vers Sochaux, il n'y a pas de gare.
Ah merde. Ah ben oui, j'ai peut-être. Ah ouais. Alors oui, j'ai peut-être. Il faudra penser à en faire une. Alors, faudra penser à en faire une, ou alors peut-être un aéroport. Et avec, on va demander à Eric Trappier de vendre des rafales pour que les gens partent de Sochaux. Non, mais je connais.
Il nous dit oui.
Ah, et voilà. Je connais Sochaux. J'allais au Stade Bonal quand j'étais petit. Voilà.
Ah, mais c'est très bien, ça. C'est très bien.
En tout cas, monsieur le maire, ça nous faisait plaisir de pouvoir vous donner la parole ce matin. Et vous savez que Philippe.
Avec tendresse et humour.
Exactement. Un dernier mot ?
Et puis, oui, si vous avez le temps de revenir un jour à Sochaux,
c'est vrai.
Je vous accueillerai avec beaucoup de plaisir.
Merci pour votre amour, merci, et je reviendrai. Promis, je vous fais signe quand je viens.
Albert Matteux-Grabeau, ben oui, maire d'hiver gauche de Sochaux. Merci d'avoir pris la parole, monsieur le maire. Philippe, un dernier mot pour notre invité Eric Trappier ?
Non, ça y est, on a fait la totale. On était parti sur Sochaux.
Je croyais.
Peut-être
bien.
Pour mon association, j'ai une association sur 14 milliards contre les cancers pédiatriques, l'association Léo. Noël approche, sur 14 milliards, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour les enfants, mais j'imagine connecté avec plein d'associations.
Le message est lancé.
On ne
le
sait jamais.
L'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 en direct, et quand vous le voulez, en replay. Merci beaucoup Eric Trappier, bonne journée à vous, bon travail. On va s'intéresser à notre météo, comme chaque matin, avec vous Louis Baudin.
Oui, encore très nuageuse et très humide, hein. Ce matin, on a de la pluie dans l'ouest, on en a autour du Massif central. Alors Massif central où c'est de la neige en montagne, hein, elle tombe très bas, ou puis à Saint-Étienne, on a quelques flocons en ce moment. Cet après-midi, la pluie concernera toute la moitié ouest avec la d'une nouvelle perturbation, donc beaucoup de nuages, peu ou pas d'éclaircies. Le vent atteindra 70 km/h près de la Manche. Dans la moitié est, on aura là aussi beaucoup de nuages, mais des averses un peu plus dispersées. Il y aura moins de neige dans le Massif central. Une plus belle luminosité, si je puis dire, près de la Méditerranée, mais avec là beaucoup de mistral et de tramontane jusqu'à 90 km/h. Voyez, il y en a pour tout le monde. Puis côté température, après quelques gelées ce matin dans l'est, 3 à 5 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes au nord-est, 7 à 10 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 10 à 14 degrés. Pas plus dans la moitié sud.
Merci beaucoup Louis Bonnet, RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, Noël en ligne de mire et cette question qui va rythmer la semaine. Comment contrer la cinquième vague qui prend de l'ampleur ?
Oui, on a dépassé les 10 000 hospitalisations en France. Faut-il accélérer la vaccination des enfants ? Un conseil sanitaire de défense se tient ce matin. Et toujours cette ligne de crête pour le gouvernement. Ne pas céder à l'affolement sans pour autant sous-estimer la flambée. Quel bilan après le premier meeting d'Éric Zemmour ? Olivier Bost était à Villepinte. Il nous dira ce qu'il a vu de l'attitude du programme de celui qui voulait marquer les esprits hier. Et puis autre question politique, à quoi joue Éric Ciotti ? Il a perdu le congrès des Républicains, mais il a taclé Valérie Pécresse durant le week-end. Dans ce journal également, comment les femmes afghanes résistent aux talibans, reportage RTL au cœur d'une école clandestine. Et puis dans une heure, vous connaîtrez l'album RTL de l'année. Vous entendrez dans 5 minutes les candidats au titre.
À 8h20, notre débat RTL, faut-il avancer oui ou non les vacances de Noël pour contrer la flambée épidémique chez les enfants. Avant cela, Cyprien Sini.
Présidentiel, quand Tintin, Lucky Luke et Astérix s'invitent dans la campagne.
On vous retrouve dès la fin du journal. À tout à l'heure, Cyprien. Et puis à 8h40, la face cachée de la une, Isabelle Choquet.
Et on va parler de la nouvelle tocade des ados pour se faire des voyages immobiles, le shifting.
Notre rendez-vous est pris.
RTL Matin.
Mais avant cela, on va parler cuisine, si vous le permettez, Yves. Les Français sont devenus de vrais cordons bleus à la faveur des confinements, avec le télétravail, avec les enfants à la maison et pour éviter les frites à tous les repas. On n'a jamais autant cuisiné et les Français se sont équipés. Plus 40% pour les machines à pain, plus 30% pour les robots qui font, vous savez, presque tout à votre place. Même s'ils coûtent parfois extrêmement cher, les plus hauts de gamme valent jusqu'à 1 300 €. D'où ce succès assez hallucinant du robot Lidl, beaucoup moins cher évidemment. On vous retrouve Léonard Cassette en direct d'un magasin du 12e arrondissement de Paris. Bonjour Léonard.
Bonjour Olivier.
Le nouveau modèle Lidl, précisément ce robot cuisine, sort aujourd'hui et vous êtes déjà avec une file d'attente assez impressionnante.
Oui, tout à fait. Hein. Une cinquantaine de personnes ici attend l'ouverture du magasin d'ici quelques instants. On voit les retardataires arriver en courant. Les premiers sont arrivés très tôt, hein, entre 6 et 7 heures ce matin. Et Imen en est à sa troisième tentative d'achat.
Je me suis renseigné dans les autres Lidl. Celui-ci est censé en avoir 40. Donc au moins là, je suis sûre de l'avoir. Le premier, je l'ai raté. Le second, j'en voulais plus parce que voilà, j'ai fait deux Lidl. Et le temps d'attente, etc., il m'est passé sous le nez, donc j'ai laissé tomber. Et celui-ci, en fait, il a des super bonnes critiques. Il est assez performant. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas.
399 €, c'est le prix du nouveau robot de cuisine. Certains, comme Pierre, font la queue pour la première fois, attirés par les bonnes affaires.
Vu qu'il coûte beaucoup moins cher que tous ses autres concurrents, en étant étudiant, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir accès à un truc un peu haut de gamme, quoi. Parce que nous, on avait vu, il est 200 € moins cher que tous ses concurrents autres. Donc là, c'était vraiment l'argument de poids pour nous. Avec un peu de chance, on aura un deuxième pour la famille qui, elle, ne peut pas se déplacer car elle est déjà au travail.
Dans ce Lidl, 100 pièces sont en stock et elles vont s'écouler sans problème dans les prochaines minutes.
Merci beaucoup Léonard Cassette. Et puis les livres de recettes cartonnent également. Par exemple, la série des faits maison de notre camarade Cyril Lignac s'est vendue à ce jour à plus d'1 million d'exemplaires.
On le retrouve juste avant 9h. Allez, on va faire le bilan du week-end de campagne chargé.
Oui, avec d'abord ce premier meeting d'Éric Zemmour hier à Villepinte. 1h30 de discours, plus de 10 000 personnes dans le public. Il voulait une démonstration de force pour lancer ou relancer sa campagne. On vous retrouve, Olivier Bost, éditorialiste politique à RTL. Vous étiez hier à Villepinte. Qu'avez-vous vu du candidat Éric Zemmour, à la fois de son attitude et de son programme ?
Eh bien, sur l'attitude, Éric Zemmour a travaillé son organisation. D'abord, le meeting était celui d'un vrai candidat à l'élection présidentielle. L'amateurisme et les erreurs grossières de ces dernières semaines ne sont plus là. Éric Zemmour a aussi abandonné sa posture recroquevillée sur ses feuilles. La salle, franchement acquise, l'a portée. Sur son programme, le candidat est désormais en fait dans ses classiques. Le grand remplacement reste sa trame. Il faut ajouter à cela une rhétorique nouvelle et très d'extrême droite. Le candidat veut délivrer ses électeurs, dit-il, de l'emprise de l'élite. L'élite, ce sont les politiques, les médias et les juges. Éric Zemmour espère ainsi capter les électeurs en recherche de radicalité, ceux qui sont aujourd'hui plutôt tentés par Marine Le Pen ou qui ont été déçus par les Républicains. Et nous sommes allés vérifier si ça marchait. Valentin Boisset pour RTL a recueilli à la sortie du meeting la parole de quelques électeurs LR curieux.
J'aurais voté sans doute pour M. Ciotti.
Je suis absolument pas immoyen. C'est intéressant. Je le sens sincère. L'étape d'après, c'est réfléchir encore. Je prendrai ma décision ou de voter Valérie Pécresse ou M. Zemmour.
Éric Zemmour est donc encore pour l'instant une curiosité.
Merci beaucoup Olivier Bost. On le dit aussi un peu seul. Et d'ailleurs, il a lancé hier un appel à Éric Ciotti qui lui a perdu pendant le congrès des Républicains. On l'écoute.
Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti.
Et voilà, Éric Ciotti donc courtisé avec son score de 39%. Valérie Pécresse aussi va devoir composer avec son électorat plus à droite. Et elle s'est adressée elle aussi à lui hier lors de son grand jury RTL Le Figaro LCI.
Dans cette équipe de France que je veux constituer, que les Français ont appris à découvrir au fil de nos débats, Éric Ciotti tient une place singulière. C'est la place que tenait un grand ministre de l'Intérieur de la République, Charles Pasqua. C'est une sensibilité très importante de la droite. La politique, c'est des idées,
mais
des convictions.
Pas la clarté aussi
et
de
les
dire
idées
avec
et les convictions
travailler.
D'Éric Ciotti auront toute leur place parce que la droite est de retour.
Oui, voilà pour les mots de Valérie Pécresse hier. Pour ménager, semble-t-il, Éric Ciotti, qui avait semblé en fait vexé après sa défaite. Il a dit publiquement qu'il n'avait pas aimé les premiers mots de Valérie Pécresse à son encontre. Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
À quoi joue Éric Ciotti dans cette affaire entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse ?
Eh bien, Éric Ciotti veut que sa ligne droitière soit prise en compte. Il a obtenu 39% des voix, malgré l'appel des trois autres candidats à voter pour Valérie Pécresse, rappelons-le. Le Niçois se sent donc en position de force pour faire pression. Un député lui avait dit il y a quelques semaines « Tu seras la Sandrine Rousseau de LR ». Il ne croyait pas si bien dire. Le vaincu se voit lui aussi en co-candidat. Des petits réglages du début, veut croire une dirigeante, mais c'est un vrai défi pour Valérie Pécresse. Garder avec elle les prototypes tentés par Éric Zemmour, on en a entendu quelques-uns, et en même temps, aller récupérer les électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron. Soit elle est danseuse étoile, soit elle risque le claquage avec ce grand écart, estime un ministre. Valérie Pécresse va d'abord essayer de tenir sa droite. Elle sera tout à l'heure à Nice, aux côtés d'Éric Ciotti qui vient de tweeter « Je souhaite sa victoire ». Visiblement, ça va mieux en le disant.
Clarification donc. Merci beaucoup Aurélie Herbemont. Et puis à propos du meeting de Villepinte, hein, deux mots tout de même des incidents. D'abord, Éric Zemmour a été blessé au poignet par un homme qu'il a agrippé pendant qu'il rejoignait la scène. Il a été placé en garde à vue. À 27 ans, cet homme n'est pas connu comme étant un activiste politique. Et puis, il y a eu des affrontements dans la salle avec des militants d'SOS Racisme qui ont tenté de dérouler une banderole. 5 personnes ont été blessées. Il y a eu là encore une cinquantaine d'interpellations.
Dans un instant, la question qui va rythmer la semaine avec Noël en ligne de mire, comment
temps éviter le pire et donc contrer la cinquième vague. Il est 8h07, à tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal d'Olivier Bois, avec la ligne de crête du gouvernement, ne pas céder à l'affolement sans minimiser la flambée épidémique.
Voilà exactement la problématique du Conseil sanitaire de défense de ce matin. On va voir dans un instant quelles mesures sont sur la table. Mais avant cela, le constat, le taux d'incidence multiplié donc par 4 en 3 semaines et les conséquences qui sont là pour le coup à l'hôpital. Plus de 10 000 hospitalisations, dont 2 000 dans les services de réanimation. Ophélie est infirmière au CHU de Nancy.
Après des semaines de stagnation, là, nettement, ça augmente. Une vingtaine de patients il y a 2 semaines, une trentaine la semaine dernière. Et là, on est précisément à 43 patients. Les réanimations, on est sur un chiffre à peu près de 15 malades. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur une soixantaine de lits de réanimation, ça commence à peser parce que y a d'autres patients qui attendent d'être soignés aussi, non Covid. Pourquoi on est inquiet? C'est parce qu'on a moins de personnel à cette heure-ci que lors des précédentes vagues. Là, on accuse le coup. On a un personnel qui est en souffrance. On a plus de 10% de taux d'absentéisme, ça veut dire que sur 3000 soignants, il en manque 300. En permanence, on a les postes non pourvus d'infirmières et on a l'absentéisme. C'est l'hécatombe. C'est une fatigue extrême, là.
Voilà pour cette inquiétude au micro de Samuel Goldschmidt à Nancy. Et on va donc maintenant faire le point, comme promis, avec la brigade RTL. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qui est sur la table justement du Conseil de défense de ce matin?
Alors pas de privation de liberté assurée hier soir Matignon, mais des recommandations à nouveau. Bien porter son masque, aérer, plus de télétravail dans les entreprises et accélérer la campagne de vaccination avec l'idée de rendre prioritaires les plus fragiles, les plus de 65 ans et les personnes malades qui auraient des créneaux réservés pour faire leur troisième dose.
Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants chez qui le taux d'incidence explose?
Oui, c'est spectaculaire. Chez les 6-11 ans, le taux d'incidence atteint 1800 en Ardèche et dans la Drôme. Il dépasse 1000 dans 35 départements. Alors si ces courbes continuent de grimper, le gouvernement étudie la possibilité de fermer les écoles primaires 2 jours plus tôt, avant Noël, le mercredi au lieu du vendredi. Il attend un avis du conseil scientifique qui sera rendu demain. Ça laisserait 10 jours avant Noël le temps de voir s'il y a des contaminations ou pas dans la famille et de savoir si on peut faire le réveillon ou pas.
Et pour poser la question clairement, justement, est-ce que nos fêtes de Noël sont menacées ou vont être normales?
Normal, non. Il faudra être prudent, on pourra se déplacer, skier, mais il faudra porter le masque au maximum, aérer. Le gouvernement s'accroche à cette lueur d'espoir. L'incidence est très forte chez les enfants, mais la hausse commence à ralentir dans le reste de la population. La courbe des nouveaux cas n'est plus exponentielle. Alors après, l'hôpital est fatigué. 2000 personnes sont en réanimation. On ne pourra pas ouvrir autant de lits que lors des vagues précédentes, disent les chefs de service dans les hôpitaux. Donc d'autres mesures sont à l'étude, comme limiter les grands rassemblements et remettre des jauges dans les bars, les restaurants, les commerces ou les concerts.
Merci beaucoup Virginie Garin, la brigade RTL ce matin sur ce conseil de défense.
Et bien justement, faut-il avancer les vacances scolaires pour limiter les contaminations? C'est notre débat ce matin avec Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, et Rodrigo Arenas, qui est le coprésident de la FCPE. Le courage maintenant des femmes afghanes qui résistent aux talibans.
Oui, depuis leur arrivée au pouvoir, le groupe islamiste a déjà suspendu l'enseignement secondaire pour les filles. Mais la résistance s'organise. Des écoles secrètes ont vu le jour. Reportage de notre envoyé spécial à Kaboul, Wilson Fash.
C'est devenu le nouveau rituel de Yasmine. Chaque après-midi, cette adolescente de 16 ans a rendez-vous dans ce quartier de Kaboul-Ouest, un quartier défavorisé, où elle va avoir cours de mathématiques ou d'anglais. Une quinzaine de jeunes filles sont déjà là.
Chers élèves, aujourd'hui, nous allons étudier les multiplications.
Il y a 3 mois, cette scène aurait été parfaitement banale, mais sous les talibans, c'est un acte de bravoure. C'est la jeune Yasmine qui, la première, a eu l'idée de cette école clandestine.
Chaque personne a de l'ambition. C'est pourquoi nous, les filles, sommes venues ici pour accomplir nos objectifs. Nous n'avons pas peur. Personne ne devrait avoir peur d'étudier. Nos écoles sont fermées, donc maintenant nous étudions ici. C'est la seule différence.
Des écoles pour filles ont déjà réouvert dans certaines provinces du pays et un leader taliban a suggéré que les autres pourraient reprendre les cours au printemps. Des promesses qui sonnent creux aux oreilles de Mariam, l'enseignante dans cette école secrète.
S'ils voulaient vraiment laisser les filles aller à l'école, ils les auraient gardées ouvertes comme les écoles de garçons afin qu'elles puissent continuer leurs études. Prolonger le délai de réouverture, cela signifie que les talibans ne sont pas honnêtes avec les femmes et les filles.
Malgré les risques, Mariam de garder les portes de sa maison ouvertes à toutes les jeunes filles qui rêvent encore d'un autre Afghanistan.
Reportage RTL de Wilson Fash dans ses écoles clandestines de Kaboul.
Notre page sportive avec la fin de la 17e journée de Ligue 1 en football.
Bordeaux et Lyon ont fait match nul de partout. La journée a été marquée par le naufrage de Saint-Etienne à domicile. Défaite 5-0 contre Rennes. L'entraîneur Claude Puel a été limogé. Au classement, le PSG est leader devant Rennes et Marseille. Et puis le suspense assez hallucinant en Formule 1. Lewis Hamilton sur Mercedes a remporté le Grand Prix d'Arabie Saoudite devant Max Verstappen sur Red Bull. Les deux hommes sont à égalité parfaite alors que se tiendra le week-end prochain le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.
Pour finir, l'événement ce matin qui sera l'album RTL de l'année.
Exactement, on aura la réponse tout à l'heure avec vous d'ailleurs Yves, à 9h dans Laissez-vous tenter. On vous rappelle les forces en présence. D'abord Calogero, la chanson Centre-ville. Elle habitait là-haut. Là, c'est Clara Luciani, cœur. On n'enferme pas les oiseaux, Barbara Pravi. Quand on peut Pascal Obispo avec France. Quand on sait plus comment vivre. À qui dire qu'on est seul. Et puis encore un habitué du genre, l'avenir de Florent Pagny. Suivi mon instinct. Voilà pour les 5 artistes donc en lice. Dans 45 minutes, on a la réponse avec vous, je disais, Yves, et avec Steven Bellery à 9h dans Laissez-vous tenter.
C'était le journal d'Olivier Bois. On vous retrouve justement à 9h pour le point de l'actualité, Olivier. À tout à l'heure. Dans un instant, Cyprien Sini surfe sur l'info. Vous surfez avec quoi donc ce matin?
C'est plus une campagne présidentielle, c'est le festival de BD d'Angoulême, niveau référence des politiques.
Très bien, à tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Et à 8h18, cher Cyprien, vous surfez avec les références des candidats à la présidentielle en matière de bande dessinée.
Ah bah oui, parce que si vous avez connu l'époque où les politiques citaient Clémenceau, Jaurès ou Victor Hugo, vous risquez d'être surpris, hein, parce que la référence, désormais, c'est...
On l'appelle Lucky Luke.
Ouais, Lucky Luke qui s'incruste dans la campagne. Alors, je sais bien que la politique, c'est le Far West, hein, mais quand même, c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui a dégainé le premier en parlant de Valérie Pécresse et des Républicains.
J'ai dit qu'elle était Emma Dalton parce qu'elle avait réussi à venir à bout d'Avrel Barnier et de Joey Ciotti.
Oui, les Républicains, c'est... Valérie Pécresse. Et alors, elle a répondu à Jean-Luc Mélenchon au grand jury.
Je ne me sens pas très Emma Dalton, je me sens plus Calamity Jane, pour tout vous dire.
La gâchette facile, valoche. Alors, en meeting hier, Jean-Luc Mélenchon lui a répondu à Calamity Jane.
J'ai un message d'un Indien à lui passer, celui de Geronimo.
Ouais, bon, ça va durer longtemps, ce petit jeu. Surtout qu'après Lucky Luke, Valérie Pécresse est partie sur un autre héros de BD.
Moi, je pourrais dire que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le général Salazar dans Tintin. Hein.
Alors, le général Salazar dans Tintin. Oui, alors bizarrement, Salazar, Tintin, on voit pas trop, mais dans un souci de pur professionnalisme... On s'est refait tous les Tintins, toute la soirée. Et alors, il y a bien le capitaine Haddock dans Tintin et les Picaros qui parle de...
On dit ici que le général Tapioca a renversé l'ancien chef du gouvernement avec l'aide de la bordurie.
Alors, il y a le général Tapioca, oui. Tintin parle aussi de...
C'était le général Alcazar, c'est un de mes amis.
Alcazar, ok. Ah. Mais alors, Salazar, introuvable chez Tintin. Non, bah non, le seul général Salazar qu'on a trouvé, c'était pas un personnage de BD. Hein.
La mort de Salazar, qui avait tenu ce petit pays de 9 millions d'habitants...
Oui, c'était le terrible dictateur portugais. Du Valéry à peu près, quoi, Alcazar. Salazar, c'est pareil. Bon, voilà. Va falloir s'habituer aux références à peu près avec Valérie, hein, parce que jeudi dernier, déjà sur RTL,
nous avons renvoyé tous ces ministres dans leur 22, comme on dit au foot.
Alors, les 22, c'est pas au foot, c'est au rugby. Oui. Hein, va falloir me muscler la culture populaire, Valérie. Enfin, pendant ce temps-là, après Lucky Luke et Tintin, on n'avait pas oublié Astérix. Bah oui, parce qu'on a eu ça ce week-end.
Éric Zemmour, avec le premier slogan, impossible n'est pas français.
Ouais, et dans Astérix, mission Cléopâtre, tiens.
Tel que c'est parti, ils tiendront les délais.
Possible.
Apparemment, impossible n'est pas gaulois.
Impossible n'est pas gaulois, même si Éric Zemmour, c'est vrai, sa référence, ça reste à coup sûr. Mais non, c'est pas Napoléon. Non, sa référence, c'est Sheila et son tube.
Impossible n'est pas français, ce proverbe, on le connaît.
Oui, les amis, la culture populaire s'invite dans le débat public. Et à ce rythme-là, dans 10 jours, il nous cite du Bécassine et du Chantal Goya.
Une vision en vous écoutant. Ah bah, enfin, oui. Tant qu'Éric Zemmour ne se prend pas pour Raon, tout va bien.
Voyez, le fils de l'homme.
Ben voilà, nous sommes d'accord. Merci Cyprien, on vous retrouve ce soir à 18h40 avec votre équipe pour défaire le monde.
L'info autrement.
RTL Matin, le choix d'Yves Calvi.
C'est donc notre grand débat ce matin. Faut-il avancer les vacances de Noël afin d'éviter les contaminations familiales? Pour en débattre, Gilles Pialoux, qui est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, et face à vous, Rodrigo Arenas, le co-président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Gilles Pialoux, cette mesure, vous semble-t-elle souhaitable, à savoir fermer les écoles quelques jours, peut-être 48 heures avant Noël?
Ben, je pense que c'est une mesure qui aurait dû être débattue avec les représentants de parents d'élèves, oui. Les enseignants, etc. Parce que pris comme ça dans l'urgence, la vague, on l'a vu quand même arriver assez rapidement. Les Belges, effectivement, ont décidé que c'était une mesure propice. Je pense qu'effectivement, on a des niveaux de circulation virale et une absence de politique de dépistage adéquate absolument saisissant dans la tranche 6-9 ans. On est à 900 pour 100 000, hein, selon Santé publique France. Donc oui, ça serait une mesure si elle est aménagée.
Et à plus de 1000 dans une trentaine de départements.
Comment ?
Et à plus de 1000 dans une trentaine de départements maintenant.
Oui, c'est énorme. Est-ce que ça suffira ? Voilà, le problème, c'est est-ce que l'objectif, c'est sauver Noël ou c'est juste sauver la France de cette circulation virale qui épuise tout le monde ? Je crois que le débat est ouvert, mais la décision, elle sera politique, il faut être très clair.
Rodrigo Arenas, qu'en pensez-vous ? Quelle est votre réaction ?
Bah, écoutez, de toute façon, les parents d'élèves ont l'habitude de s'organiser, soit pour garder les enfants.
Ah, alors ça, c'est, vous savez, ces petites ruptures de faisceau que nous avons de temps à autre. Donc, en attendant de récupérer Rodrigo Arenas, je me tourne vers vous une nouvelle fois, Gilles Pialoux. L'incidence chez les enfants est extrêmement impressionnante, vous venez de nous le rappeler. Sont-ils pour autant particulièrement contaminants ?
Mais je crois qu'on a raconté tout et son contraire, et on continue encore à raconter tout et son contraire. Là, il y a suffisamment de faisceaux d'arguments pour dire qu'effectivement, c'est actuellement le noyau de la circulation virale chez les enfants et chez les non-vaccinés. Il faut être très clair là-dessus. Ça a été montré dans l'étude de Arnaud Fontané, qui montre très clairement que quand vous avez un enfant à la maison, ça augmente de 40% la probabilité d'être contaminé. Donc c'est pas un discours culpabilisant, c'est une réalité indiscutable. C'est le foyer de circulation virale le plus important actuellement.
Donc le foyer,
plus,
pardonnez-moi, j'insiste.
Il n'est pas dépisté.
Oui.
Excusez-moi, Yves.
Non, mais je vous en prie. Vous venez de nous dire que le foyer de circulation virale le plus important de notre pays en ce moment, ce sont nos enfants et qu'ils ne sont pas dépistés. Donc c'est essentiel. Rodrigo Arenas, on vous a récupéré, oui. Excusez-nous pour ce problème
mais
technique.
C'est la fracture numérique. Vous voyez, l'école à la maison, c'est compliqué parfois sinon.
Bah, oui, que voulez-vous dire?
Non, mais je confirme ce que dit votre invité, c'est-à-dire qu'il y a une étude de l'Institut Pasteur qui disait déjà en juin 2020, que l'essentiel des contaminations se faisait dans le foyer familial et qu'en l'occurrence, l'école et les enfants étaient moins contaminants et les charges virales étaient moins violentes. Mais la question ne se pose pas dans ces termes-là aujourd'hui. La question qui se pose pour nous, c'est que de toute façon, en tant que parents, on a l'habitude de contribuer fortement, voire essentiellement à l'effort national pour lutter contre la pandémie. Et si on doit le refaire, on doit le refaire. La question qui se pose, c'est qu'il est hors de question, encore une fois, c'est que si les parents sont mis à contribution pour devoir garder les enfants à la maison parce qu'on bouge le calendrier scolaire à quelques jours des vacances, en plus on va se le dire, de combler cette inefficacité, voire cette incompétence parfois de l'exécutif en baissant les salaires des parents. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous avez un enfant qui est renvoyé à la maison et qu'il est négatif, notamment avant le changement de protocole sanitaire, les parents qui gardaient à la maison et qui étaient négatifs n'étaient pas couverts ni par la sécurité sociale, ni par leur employeur pour pouvoir compenser la baisse de salaire parce que les jours de vacances qu'on doit poser, eux, ne sont pas extensibles. Donc la condition est celle-là, qu'aucun parent ne perde un centime parce qu'il doit garder les enfants à la maison, car vous savez très bien que pendant les vacances qui vont arriver là, ben, on est lourdement mis à contribution. C'est un très mauvais cadeau de Noël pour les enfants que de taper dans le portefeuille des parents pour finalement faire face à cette inefficacité d'une vague qu'on attendait tous. Tout le monde savait ce qui allait arriver. Et eux n'ont pas mis la main au portefeuille. Donc c'est pas nous qui allons mettre la main au portefeuille pour compenser.
Je vous ai bien compris ce que vous venez de nous dire. C'est en quelque sorte une double peine pour les parents. C'est-à-dire, un, le risque d'être contaminé parce que les enfants rentrent à la maison et ensuite, l'impact sur leur travail et donc sur leur revenu.
Absolument. Oui. Et d'ailleurs, parce qu'il y a une autre question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un retard cognitif des enfants, notamment par rapport aux apprentissages, tout le monde le sait. Il y a Parcoursup qui arrive, qui a créé des inégalités de traitement entre les élèves, notamment sur les parcours qui sont les plus exigeants en termes de notation et de contenu pédagogique, donc en termes de notes scolaires. Donc que font les parents aujourd'hui depuis maintenant 2 ans? C'est qu'ils mettent la main au portefeuille pour prendre des cours particuliers, pour s'abonner à Academia ou d'autres lectures en ligne ou de cours en ligne, d'exercices, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et les parents sont en train de s'équiper en matériel informatique parce qu'ils ont peur et ils s'inquiètent notamment de l'école à la maison qui ne fonctionne pas, car enseigner à distance est un métier. Et aujourd'hui, les enseignants, ni les enfants, ni les parents ne sont formés à ce qu'on appelle chichement l'école à la maison. En fait, c'est du télétravail que font les enfants dès les plus jeunes, à des âges où ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils sont en train de faire d'un point de vue éducatif, pédagogique et de méthode. Donc, on ne peut pas demander aux parents constamment de taper dans le portefeuille qui devient exsangue pour compenser l'inefficacité. Excusez-moi de le dire un peu violemment, mais c'est incompétence de traitement de l'école, car tout ce que nous vivons là, nous pouvions anticiper. On pouvait donner des masques, on pouvait équiper en capteurs CO2, on pouvait embaucher des adultes pour réduire les effectifs, on pouvait mettre des lave-mains pour que les enfants se lavent les mains à l'école et empêcher l'épidémie. Tout ça, cet investissement n'a pas été fait. C'est même pire. Le ministre de l'Éducation nationale, sans vouloir être outancier, a rendu plus d'un demi-milliard d'euros de l'argent des enfants et des enseignants à son collègue du budget. C'est le seul ministère qui a fait des économies pendant ce quinquennat, pendant une pandémie. C'est un scandale. Donc arrêtons de taper dans le portefeuille des parents pour compenser cette inefficacité, voire cette incompétence.
Je me tourne à nouveau vers vous, Gilles Pialoux. Moi, je veux vous dire, en vous écoutant ce matin, je me dis qu'on ne va pas couper à la vaccination des enfants.
Ah ben non, de toute façon, je crois que le ministre a été clair, le débat est ouvert, les États-Unis nous ont montré la voie, ils ont administré plus de 4 millions de doses à au moins de 10 ans, donc on aura ce recul-là. Et puis, je rejoins un peu sous un autre ton ce qui a été dit, pourquoi les enfants seraient la seule population qu'on protège mal, qu'on vaccine pas, qu'on laisse dans des classes non aérées sans capteurs, avec une restauration collective sans distanciation sociale, et qu'en plus on dépiste mal. Donc je pense que les Français vont le comprendre, il faudra de la pédagogie, parce qu'à un moment on a expliqué au début du temps de la Chine que les enfants n'étaient pas contaminants, ben non, on s'est trompé, et puis le variant Delta est venu, rebrasser tout ça. Donc oui, on n'y échappera pas aux vaccinations des 5-11 ans sur la base du volontariat.
En tout cas, vous avez été parfaitement clair, et l'un et l'autre, Gilles Pialoux. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, et merci aussi à Rodrigo Arenas, le co-président donc de la FCPE, c'est la Fédération des conseils de parents d'élèves. 8h28, dans un instant, notre point météo à 7 jours avec Louis Baudin. Et puis nous irons faire un tour sur les quais de la Seine parisien à la rencontre des bouquinistes le long du fleuve.
RTL Matin.
8h31, en attendant de retrouver Julien Courbet dès 9h30 avec ce dossier tout à fait étonnant. Bon, on va parler de notre météo, et c'est notre météo à 7 jours.
Et je vous le dis tout de suite, elle va être agitée, humide, froide. De la neige en montagne, et ça va durer toute la semaine. Alors évidemment, on ajustera la chronologie de jour en jour de ces perturbations qui vont défiler sur la France. Alors celle de demain arrivera demain matin sur les régions de l'Ouest. À la mi-journée, elle sera sur toute la moitié Ouest. Elle arrivera sur l'Île-de-France, sur le Nord-Pas-de-Calais ou encore autour du Massif central. En arrivant sur les montagnes, elle donnera de la neige dès 1300-1400 mètres. Elle sera en fin de journée sur les régions de l'Est avec de la pluie en plaine et de la neige en montagne près de la Méditerranée. Et encore, où ça restera un petit peu plus lumineux. Oui. Le vent sera également de la partie. 70-80 km/h sur les côtes. Et puis les températures. Alors évidemment, comme il y aura des nuages, moins de gelée en plaine. On sera souvent entre 1 et 5 degrés l'après-midi. On dépassera à peine les 7-8 degrés dans les régions du nord-est. Et on restera bloqué sous les 10 degrés, sauf près de la Méditerranée. Pour mercredi, alors là, c'est de nouveau un refroidissement. Donc nous aurons des averses en forme de pluie ou de neige à très basse altitude. Des 300-400 mètres dans l'est. Jeudi arrivera une nouvelle perturbation qui traversera toute la France avec beaucoup de vent. On frôlera les 80-90 km/h sur les côtes. Mm-hmm. Même chose pour vendredi. Et puis pour samedi et dimanche, nous serons toujours dans un courant de nord-ouest, alors avec peut-être quelques éclaircies, mais toujours du froid et toujours beaucoup de neige en montagne. Oui, elle va s'accumuler sur tous les massifs d'ici la fin de la semaine.
Est-ce que vous venez de nous suggérer qu'on allait skier quoi qu'il arrive pour les fêtes de Noël?
Oh là, c'est bien parti. Il faudrait vraiment un très gros redout pour la semaine de Noël pour qu'on ait plus de bonnes conditions de neige. Mais enfin, bon, attendons, avec la météo, on peut avoir parfois des surprises. En tout cas, au 15 décembre, on aura beaucoup de neige en montagne et sur tous les massifs.
Merci beaucoup, cher Louis Baudin. RTL, il est 8h33, on va partir en Allemagne.
RTL autour du monde.
RTL autour du monde, direction l'Allemagne ce matin, où si tout va bien, Olaf Scholz devrait être élu chancelier ce mercredi par le Parlement. Le pays devrait alors enfin avoir un successeur officiel à Angela Merkel, plus de 2 mois après les élections. Alors, qui est Olaf Scholz et quel défi devra-t-il relever? On va en savoir plus avec notre correspondant à Berlin. Bonjour Léo Brauer-Potier.
Guten Morgen Yves, bonjour tout le monde.
Sauf surprise, l'ancien ministre des Finances d'Angela Merkel devient chancelier mercredi, un rival de la chancelière qui a su doucement se frayer un chemin à la tête du pays.
Oui, Olaf Scholz, 63 ans et un solide pédigré politique, que ce soit au local comme au national. Ancien ministre du Travail et des Affaires Sociales à la fin des années 2000, maire de Hambourg pendant 7 années, puis vice-chancelier et vice-ministre des Finances dans le dernier gouvernement. Pour les élections, il a su incarner la continuité. Sous-entendu, vous en faites pas, je ferai comme Merkel, mais version social-démocratie. Mm-hmm. Ce qui ne rebute pas les représentants de l'économie allemande. Voici ce que raconte à propos d'Olaf Scholz le patron des industriels allemands, Siegfried Roswurm.
Olaf Scholz est avocat du travail. C'est sa profession d'origine. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de discuter quand il était maire de Hambourg, où il avait fait preuve d'un esprit d'innovation dans le développement des infrastructures de la ville. Je le considère comme un interlocuteur solide et rationnel.
Alors l'industrie allemande semble prête à travailler avec Olaf Scholz, qui a pourtant un programme social à mettre en œuvre, hein.
Oui, par exemple, le salaire minimum là va passer à 9,60€ au 1er janvier hein, de l'heure. Et les sociaux-démocrates, Scholz en tête, se sont fait élire sur la promesse électorale d'augmenter ce salaire minimum à 12€ de l'heure. Le défi est donc de savoir comment Scholz va négocier ça auprès des employeurs.
Alors cela dit, Léo, c'est pas le seul défi qui attend le futur chancelier allemand, hein.
Oui, et il y en a beaucoup des défis. On peut commencer par la maîtrise de l'épidémie de la Covid, qui représente un vrai risque pour l'action politique d'Olaf Scholz. Durant les derniers mois et les dernières années, Angela Merkel a subi la crise de la Covid, ce qui l'a empêché de mener des réformes, et même de nouvelles réformes. C'est exactement le même risque qui pèse sur Olaf Scholz durant ses premières années et premiers mois de pouvoir. Ce qui explique aussi pourquoi l'homme s'est exprimé en faveur de l'obligation générale de vaccination, qui pourrait voir le jour en février ou mars 2022 en Allemagne. Autre défi, ça sera de réussir à tenir sa coalition, car le SPD va régner avec les Verts d'un côté et les Libéraux de l'autre. Un défi résumé par Ralf Bollmann, journaliste politique au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Comment articuler protection de l'environnement, cher aux Verts, tout en maintenant l'Allemagne comme pays d'exportation, ce qui est la priorité des libéraux? Scholz s'oriente vers une protection de l'environnement, non pas en punissant l'économie, mais en essayant de réduire l'impact CO2 au travers de la modernisation des technologies. C'est très important pour le parti de Scholz, car historiquement, le SPD est proche des syndicats, et notamment de IG Metall, les métallos, la branche automobile, et c'est une branche qui doit se transformer pour ne pas plonger. C'est un des défis majeurs du SPD et donc d'Olaf Scholz.
Et il ne s'agit là que d'une partie du travail qui attend le futur chancelier. Il y a la numérisation des administrations, la réforme familiale, tenir l'Allemagne, le rang de l'Allemagne en Europe et dans le monde, tout en soignant la relation franco-allemande. Bref, il va y avoir du boulot pour Olaf Scholz à partir de mercredi.
La situation politique allemande est très intéressante. On va continuer de suivre tout cela avec vous, Léo Brauer-Potier. Merci beaucoup. RTL Autour du Monde à retrouver sur notre site ou sur notre application mobile. La face cachée de la une, dans un instant, avec Isabelle Choquet. De quoi s'agit-il ce matin, Isabelle?
Nous allons shifter, c'est un truc d'ado, je vais vous expliquer.
Mon shift dans un instant sur RTL, mais oui.
RTL Matin, la face cachée de la une.
Il est 8h38 et ce matin, Isabelle Choquet, gros plan sur une nouvelle pratique adolescente, le shifting. Expliquez-nous.
Oui, alors personnellement, je n'en avais jamais entendu parler, je dois le dire. J'ai tout appris du shifting en lisant un article dans M, le magazine du Monde. Alors, to shift, en anglais, ça veut dire déplacer. Et shifter, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est se transporter dans une autre réalité, mais pas en utilisant des substances illicites, hein, juste par la force de la pensée. On est quelque part entre la méditation et l'auto-hypnose. Charlotte, 19 ans, utilise toujours la même méthode. Je me couche sur le dos, les yeux fermés, et je récite l'alphabet. Je pense très fort à l'endroit où j'aimerais me trouver. Au bout de quelques minutes, ma tête devient lourde, j'ai mal au crâne, je commence à voir des flashs blancs. Charlotte vit alors un voyage immobile. La première fois que ça a fonctionné, dit-elle, c'était il y a 2 ans. Je me suis retrouvée dans une plaine très calme, avec des fleurs partout. Je sentais l'odeur de l'herbe coupée. Je pouvais la toucher des doigts. J'étais libre, tranquille, dans un état de bonheur pur. Tous les shifters le disent, c'est beaucoup plus réaliste et plus troublant que n'importe quel rêve. Le shifting est apparu il y a quelques années aux États-Unis. La pratique a vraiment explosé en France l'an dernier. Quelques garçons s'y aventurent, mais ça séduit surtout des filles en mal d'évasion et de magie. La plupart cherchent à voyager dans des univers de fiction comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Sur TikTok, le hashtag Shifting Realities affiche aujourd'hui plus de 2,5 milliards de vues. Si 2,5 milliards, c'est colossal. Ceux qui ont réussi l'affichent très fièrement et puis ils partagent leurs astuces, bien sûr. Les adeptes du shifting ont tout un vocabulaire très anglish. Il y a leur environnement actuel, on dit CR pour Current Reality. L'objectif, c'est la réalité désirée, ou DR pour Desired Reality. Pour y parvenir, la méthode la plus connue, c'est la Raven méthode, s'allonger, bras et jambes écartés et compter à rebours à partir de 100. Certains préfèrent la Heartbeat méthode où on écoute des enregistrements de bruits de battements de cœur. Et avant de basculer dans un état second, bien les shifters décrivent tous les mêmes symptômes, des picotements dans tout le corps, des flashements ou un poids au niveau du ventre. Tout cela ressemble plus ou moins à ce que pratique Jean-Marc Bernheim, qui est médecin hypnothérapeute, mais il a quelques réticences vis-à-vis du shifting. Dans le cadre de l'hypnose thérapeutique, dit-il, l'objectif n'est pas de fuir la réalité, mais d'apprendre à s'y adapter. Le shifting risque d'égarer ceux qui le pratiquent parce qu'il n'en tire pas vraiment d'outils pour apprendre à affronter la vie réelle. Oui. Pourtant, le voyage intérieur permet parfois de retrouver une certaine confiance en soi. Charlotte, par exemple, traversait une période de dépression quand elle a commencé à essayer de shifter. Quand ça a enfin fonctionné, dit-elle, c'était comme si tout le poids du monde s'enlevait de mes épaules. Elsa, elle, n'a jamais réussi, mais elle en a quand même retiré quelque chose. Ça m'a aidé à gérer mon stress, dit-elle. J'ai aussi compris que mon quotidien n'était pas si désagréable. Si je peux mettre autant d'énergie à désirer une réalité qui n'est pas la mienne, je peux aussi apprendre à apprécier celle dans laquelle je vis. Le shifting, enquête à lire dans M, le magazine du Monde.
Il est 8h41. Merci beaucoup Isabelle. À demain matin.
À demain.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça nous emmène ce matin à Paris à la rencontre des bouquinistes. Leur boîte verte remplie de livres, un vrai décor hein, de cartes postales qu'ils veulent désormais faire reconnaître au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez rencontré ces passionnés qui font presque partie du décor hein, des quais de la capitale.
Vous pouvez payer avec la carte si vous voulez.
Oui, 220 passionnés répartis sur 4 km le long de la Seine. Une promenade qui va du Louvre à la Cité des Arts sur la rive droite et de l'Institut du Monde Arabe à Saint-Germain-des-Prés sur la rive gauche. C'est là, quai de Conti, face au Musée de la Monnaie, qu'est installé Gildas depuis une trentaine d'années.
Je vous laisse regarder, à vous de voir. Vous avez des livres 17e, 18e, des livres à gravure, de la littérature.
Par exemple, là, on a Madame Bovary.
Oui, voilà. La Bible, Georges Sand, il y a de tout.
Et qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ce métier ?
Le contact. Moi, j'adore ça. Je ne pourrais pas vivre dans un bureau. Je ne pourrais pas faire autre chose.
Travailler dehors, dans ces quartiers mythiques de Paris, faire ce métier qui vous rend, avec vos boîtes vertes, presque aussi culte que la Tour Eiffel, c'est aussi ce qui a plu à Jean-Pierre.
On fait partie du réel mobilier urbain, comme les banques.
Cet ancien prof de philo vend des livres et des gravures près de la Sorbonne, justement.
Comme j'ai dû passer à la retraite, puis j'avais pas assez d'argent pour monter une librairie. Et en fait, je suis bien dans la rue, parce que je suis originaire de Marseille.
En 30 ans, vous avez dû en voir des choses.
C'est vrai. J'ai même eu Nicholson comme client ici.
Jack Nicholson ?
Ouais. Il est parti avec les gravures sous le bras. J'ai eu Mitterrand comme client aussi.
C'est-à-dire
ouais.
Que vous voyez un matin un touriste et puis l'après-midi voilà. Le président.
Ouais, c'est ça. Il y a les clochards, il y a les genres de Bonotto, il y a un tas de trucs. Et c'est ça qui me plaît.
Je suis spécialiste du bavard.
Le bouquiniste est à Paris ce que le gondolier est à Venise.
Des livres, Jérôme Calais en propose depuis 30 ans près du Pont Neuf. Sur son dos, un manteau aux poches assez grandes pour contenir ses dernières trouvailles. Et depuis 9 ans, il est aussi le président de l'Association culturelle des bouquinistes de Paris.
C'est probablement un des plus anciens métiers de Paris et le dernier vrai petit métier spécifiquement parisien encore en activité.
Et pour essayer de faire rayonner la profession dans le monde entier, les bouquinistes veulent maintenant être reconnus par l'UNESCO, Hortense.
Oui, ils ont déjà obtenu le classement au patrimoine culturel immatériel français. Une première reconnaissance pour Jérôme Calais, alors que la profession a souffert ces dernières années entre les mouvements sociaux et les confinements.
On nous a regardés différemment suite à ce classement, mais ça nous apporte aussi plus de considération. On se sent un peu moins clochard Paris-pathéticien qu'auparavant.
Chaque bouquiniste dispose de 4 boîtes vertes de 2 mètres de long sur 60 cm de large. C'est la règle. Et pour en devenir l'heureux propriétaire, il faut simplement déposer une demande examinée en commission. Pour le moment, une vingtaine de concessions sont à pourvoir, mais seulement la moitié a reçu une candidature.
C'est vrai que du 109, on en aurait besoin. Et je pense qu'il y a peut-être une chance que ça reprenne. J'ai du mal à croire qu'on puisse se satisfaire toute sa vie d'une relation avec un écran numérique.
Jérôme Calais et ses collègues attendent maintenant la fin de la présidentielle pour relancer à nouveau leur projet de candidature à l'UNESCO.
Merci beaucoup Hortense Crêpe. Enfin, sachez-le, il est possible donc de candidater pour devenir bouquiniste. Vous l'avez entendu, rendez-vous sur le site de la mairie de Paris pour déposer votre dossier. Vous avez jusqu'au 18 février 2022 pour le faire. On va retrouver Laurent Gérard dans un instant avec toute son équipe. À tout de suite.
Yves Calvi, RTL Matin.
Cyril Lignac est déjà parmi nous et tout oui. Ah. Et donc, eh ben voilà, oh, c'était beau ce
ah. C'est beau ce matin.
C'est le Frank Sinatra. Alors bon, pardonnez-moi. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jeanne.
Bonjour à tous. Monsieur Calvi et bonjour à tous en effet. C'est donc Valérie Pécresse, vous le savez, qui a été élue à la primaire des Républicains avec 60% des votes des militants contre 40% pour Éric Ciotti.
Bonjour.
Vous buviez peut-être, monsieur
Sarkozy. Non, pas du tout, pas du tout. Mais pas du tout.
Vous avez suivi cette élection ?
Mais j'aurais manqué ça sous aucun prétexte. Pour être tranquille, j'ai demandé à ma Carlita de chanter un peu moins fort. Bah, c'était pas très difficile. Et à ma petite Julia d'aller jouer toute seule dans sa chambre Monopoly.
Ah mais le Monopoly ne se joue pas seul.
Mais ma petite Julia, elle y joue toute seule.
Ah bon ?
Elle peut passer des heures à compter tous les billets. C'est Claude Guéant qui lui a appris.
Elle tient un peu de son père aussi.
Non, non, parce que Julia, elle prend les 20 000 sans jamais passer par la case brisante.
D'accord. Alors revenons plutôt à ce second tour de la primaire des Républicains que vous avez donc suivi.
Enfin voyons, comment que j'aurais pu rater cette bataille des chefs entre Sœur Sourire et Donald Duck ?
Vous voulez dire entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti ?
Oui, 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 c'est bien ce que je dis.
Oui. Vous pensez que c'est une bonne idée que Valérie Pécresse ait été élue ?
C'est formidable.
C'est bien.
Elle est tellement proche du peuple à Valoche. Une Versaillaise née à Neuilly qui a fait l'ENA. Après les gilets jaunes, les serre-têtes en velours, c'est parfait.
Oh. Eh bien justement, bonjour Éric Ciotti.
Bonjour.
Vous n'êtes pas trop déçu d'être passé à une tête de la victoire des primaires républicaines ?
Comment ça, une tête ? Vous sous-entendez que je suis petit ?
Mais pas du tout, non. C'est une expression, voyons. Je veux juste savoir si vous acceptez la défaite.
Tout à fait, car je suis un candidat fair play. J'appelle donc tous mes supporters à voter Marine Le Pen dès le premier tour.
Non, vous voulez dire Valérie Pécresse ?
Ah pardon, ma langue a fourché.
Oui, c'est peut-être parce que vous avez de nombreuses idées en commun avec Marine Le Pen.
Certes, mais républicain je suis, et républicain je resterai. Donc je le dis haut et fort, votez Zemmour.
Je crois que les républicains n'ont pas fini de se prendre le bec.
Je ne suis pas un canard.
Éric Zemmour a fait son premier vrai meeting de campagne samedi au parc des expositions de Villepinte. Mais ce qui fait encore beaucoup parler, c'est la vidéo dans laquelle il a annoncé officiellement sa candidature la semaine dernière.
Bonjour.
Bonjour Dominique Besnéard. Éric Zemmour vous intéresse ?
Faut pas oublier que j'ai été directeur de casting, agent, acteur, scénariste, producteur, c'est bien ça. Alors pourquoi ? À part blotter les comédiennes dans les coulisses, j'ai tout fait dans le cinéma.
Certes, mais quel rapport avec Éric Zemmour ?
Ben moi, les performances d'acteur, ça me passionne. Le remake de son Appel de Londres en vidéo, on s'y serait cru. Zemmour, vous lui ajoutez 1m50 de jambes, un képi et du charisme, et vous avez Charles de Gaulle.
Ouh, je vous sens moqueur, Dominique.
Oui. Vous me connaissez, je suis pas là pour dire du mal. Mm-hmm. Enfin, vous avez vu sa vidéo dans la pénombre, le nez dans ses feuilles, avec son micro d'avant-guerre. Heureusement qu'il était sur YouTube, sinon ce serait cru en 1940. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait nous dire que les carottes sont cuites et que le coq chantera trois fois.
Bon, vous n'avez pas été convaincu, donc.
Hein. Bah, c'est surtout qu'à la fin, j'avais plus envie de me pendre que de voter pour lui. Je sais pas qui l'a mis en scène, mais faut le mettre d'urgence sous antidépresseur. Hein. Plus anxiogène que ça, tu meurs. Ouais, pas facile à dire. La litanie d'horreur entrecoupée d'images de bagarres dans des sacs poubelles, de tirs de mortier et de migrants qui marchent sur les seringues. À côté, Orange Mécanique, c'est oui oui à la plage. Oh, et puis la musique derrière, la 7e de Beethoven. C'est d'un sinistre. Il n'allait pas mettre la compagnie Créole, d'accord, mais enfin quand même.
Quoique.
Pour un type qui se prend pour De Gaulle et qui défend la France, on ne met pas de musique de Schiller. On met du Bizet ou Debussy. Voilà, ou Ravel.
Bon, et sa performance au parc des expositions, alors, qu'en avez-vous pensé ?
Ben, c'est-à-dire que le dernier artiste que j'ai vu dans ce genre de méga salle, c'est Johnny Hallyday. Alors forcément, c'est pas la même ambiance. Ça m'a fait un choc. Zemmour, à la limite, tu le mets au théâtre de poche. Mais là, ce petit bonhomme tout seul sur cette grande scène, dans son costume étriqué, j'avais l'impression de voir un Playmobil dans une baignoire.
Bon, ben voilà, vous avez bien résumé. Merci Dominique.
Ceci dit, j'ai un rôle pour lui dans une adaptation que je vais bientôt tourner.
Ah, ah oui, laquelle ?
Gargamel contre les Schtroumpfs noirs. Je l'appellerai pour faire plaisir aux Wooks. Zemmour contre les Schtroumpfs racisés. Oh, bah c'est pas facile à dire.
Un conseil de défense doit se tenir aujourd'hui face à la situation sanitaire qui se dégrade en France comme partout en Europe. Face à la propagation inquiétante du variant Omicron, le ministère de la Santé lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux gestes barrières. Découvrons-la ensemble.
Bonjour, c'est Olivier Véran. Comme vous le savez, le variant Omicron menace la France. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà reconfiné depuis longtemps. Je fusillerai personnellement les récalcitrants en place publique et je tendrai les femmes qui couchent avec les antivax. Mais Emmanuel Macron étant en campagne électorale, il m'a interdit de vous enquiquiner avec de nouvelles restrictions. Du coup, ma consigne est simple, faites ce que vous voulez. Oubliez les gestes barrières, faites-vous la bise, roulez-vous des pelles, léchez la barre du métro, remplacez vos 5 fruits et légumes par jour par des frites et des pizzas, arrêtez le sport, fumez, buvez, faites l'amour sans capote, bref, faites-vous plaisir et surtout votez Macron.
C'est drôle. À l'issue du Conseil de défense sanitaire qui aura lieu tout à l'heure, de nouvelles mesures pourraient être annoncées, comme le retour des tests gratuits.
Bonjour.
Tiens, bonjour Cadmérade.
Oh, mais arrêtez avec ça, je ne suis pas Cadmérade, je suis François Langlais.
Ah, pardon. C'est votre nouveau look, mais revenons au retour des tests gratuits. Y êtes-vous favorable ?
Il y a du pour et il y a du contre. Le pour, c'est qu'avec l'argent économisé grâce à la gratuité des tests, les Français pourront s'acheter l'intégralité du panier RTL avec les pâtes Lustucru, le gel douche au Baou fraîcheur des îles et les 400 grammes de chair à saucisse.
D'accord, et le contre ?
Le contre est sanitaire. Au contraire de la gratuité, le gouvernement devrait fixer le prix du test antigénique à 15 000 euros.
15 000 euros ?
Bien sûr. Avec un test à 15 000 boules, personne ne se fait tester, du coup personne n'est positif et on a éliminé le virus en France.
Ah ben voilà, fallait y penser.
Bah c'est scientifique.
Eh oui.
Bonjour. Ah. Il y en a des bonjours aujourd'hui.
Ah oui, il y en a beaucoup. Bonjour Pascal Pro. J'imagine que vous allez revenir vous aussi sur la victoire de Valérie Pécresse aux primaires. À l'élection présidentielle.
Absolument. Était-il vraiment utile de nous bassiner pendant des semaines avec des débats internes des Républicains pour finalement accoucher laborieusement d'une candidate dont l'excellent Éric Zemmour ne va faire qu'une bouchée ? Je pose la question au 32-10.
Ne la sous-estimez pas, hein, Pascal. Il y a encore une semaine, tout le monde voyait Xavier Bertrand gagnant et c'est elle qui l'emporte.
C'est vrai. Est-ce parce que, aux yeux des électeurs, Xavier Bertrand évoque moins De Gaulle qu'une demi-Gaulle ? Je pose la question au 32-10.
Bah, c'est une façon de voir les choses.
Sur ce, je vous laisse. Mon émission L'heure des pros va commencer. Je dois mettre un coussin péteur sur le siège de Laurent Geoffrin avant qu'il n'arrive. Va-t-il une nouvelle fois se payer la honte à dire en direct ? Bah, réagissez au 32-10.
C'est trop rapide. Voilà. Vous nous quittez trop rapidement.
Oh, bah bon,
c'est gentil.
Donc, oui, mais on peut compenser cela.
Oui, oui. Ah oui, oui, oui
en
oui,
allant sur le site RTL.fr ouais. Et en se donnant rendez-vous dès demain matin.
Eh bien. Hein, demain.
Ça vous convient ?
Bah oui, ça vous convient.
Mais avant,
on peut manger. On a faim.
Et voilà. Et vous savez quoi ? Bah, on va avoir une recette de gâteau à l'orange.
À l'orange. Il est là, c'est les agrumes.
Il frétille, il rutile.
J'ai pas fini.
Ah, tout de suite. Il n'a pas fini.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bon allez, fissa, fissa. Moi je vous parle quand je faisais mon service militaire. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On vous retrouve pour une nouvelle semaine d'astuces en cuisine. Mais oui. Alors François de Metz, hein, ça n'est pas une particule de noblesse, vous interroge ce matin.
Ah, oui.
La saison des agrumes a commencé. Il a raison. Aujourd'hui, j'aimerais que vous nous expliquiez comment faire un savoureux gâteau à l'orange avec si possible un petit glaçage, ce qui me rappellerait celui de mon enfance. C'est charmant.
Mais génial.
Mais oui.
Et moi j'adore le gâteau à l'orange. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire à l'orange, au citron, aux agrumes. Donc là, on fait fondre 50 g de beurre,
On vous écoute religieusement.
On fait prendre 50 grammes de beurre, le zeste de deux oranges avec 190 grammes de sucre, une petite cuillère à café de sel ou de fleur de sel. Mmh. On met la farine, la levure, on mélange.
Miam, miam.
Voilà. On coupe en deux les oranges pour obtenir le jus.
Mmh.
Ensuite, on met 80 grammes de crème plus 3 œufs plus le beurre. On mélange tout ça, on verse dans l'autre pâte. C'est comme un 4 quarts, en fait.
Ça me plaît beaucoup, votre histoire, oui.
On verse dans un moule qu'on a beurré et fariné.
Beurrons le moule.
Et 165 grammes. 165 grammes. 165 degrés.
Oui.
Pendant 35 minutes.
Ben voilà.
Et il va ressortir donc hyper moelleux. Et pour faire le petit glaçage, moi, je fais simplement un jus d'orange avec un petit peu de sucre glace. On fait chauffer. Et après, on le lustre comme ça. Si on veut faire plus naturel, on peut mélanger du miel avec du jus d'orange, et on nappe juste dessus, comme ça. Ça permet, comme il est chaud, d'imbiber un petit peu le gâteau, et surtout qu'il brille, et c'est hyper bon. On peut le faire aussi au citron. Hein.
Dites donc, on vous retrouve ce soir sur M6.
Eh oui, en direct, je vais préparer mes recettes. Là.
Et alors, ça sera quoi ce soir?
Ce sera...
Lasagne.
La surprise.
Allez. Des cuisses de canard. Eh ben voilà. Lasagne forestière aux cuisses de canard. Moi, je connais votre programme de
jeu. Vous suivez.
Eh ben voilà,
je vais les préparer tout de suite.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Olivier Bois.
Conseil sanitaire de défense ce matin, alors que la flambée épidémique se poursuit. Le taux d'incidence multiplié par 4 en 3 semaines. On a dépassé hier les 10 000 hospitalisations, dont 2 000 dans les services de réanimation. Pour autant, le gouvernement n'envisage pas à cette heure aucune mesure de privation de liberté. La priorité reste à l'accélération de la campagne de vaccination. Demain, le conseil scientifique, en revanche, devrait se pencher sur l'hypothèse d'avancer les vacances de fin d'année. Sur ce débat, rien n'est tranché à cette heure. En Belgique, en revanche, les autorités ont décidé d'avancer les vacances de Noël d'une semaine. L'Italie, de son côté, accentue la pression sur les non-vaccinés. Même avec un test négatif, les Italiens n'ont plus le droit, à partir d'aujourd'hui, de rentrer dans les bars et dans les restaurants. Je souhaite la victoire de Valérie Pécresse. Le tweet ce matin d'Éric Ciotti, qui va s'afficher aujourd'hui à Nice, aux côtés donc de celle qui a remporté le congrès des Républicains. Message en forme de précision, alors que ce week-end, Éric Ciotti a dit publiquement ne pas avoir apprécié les premiers mots de la candidate à son encontre sur la prise en compte de sa ligne droitière. Éric Zemmour, lui, a pris soin de lancer un appel justement aux électeurs d'Éric Ciotti, dont il a dit qu'il était son ami. Le candidat a rassemblé plus de 10 000 personnes hier à Villepinte. Il a été blessé au poignet par un homme qui l'a agrippé. Cet homme de 27 ans a été interpellé. On ne connaît rien de ses motivations. Le pape François termine aujourd'hui sa visite de 3 jours sur l'île grecque de Lesbos, marquée par son appel vibrant à aider les réfugiés. Arrêtons ce naufrage de civilisation, a-t-il lancé, s'indignant de voir la Méditerranée devenir, je cite, un cimetière froid sans pierre tombale. Le sport, Bordeaux et Lyon ont fait match nul 2-2 en clôture de la 17e journée de Ligue 1 hier soir. Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Saint-Etienne après la défaite 5-0 à domicile contre Rennes. Au classement, le PSG est toujours leader devant Rennes et Marseille.
Merci beaucoup Olivier Bois.